je propose que je commence sur la partie bon. Globale du club.
Prenez place, hein, monsieur. Après, vous parlez de Royan, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. En ce vendredi 1er juillet, donc c'est un peu tard dans la saison, mais le fait que vous soyez là, ça prouve qu'il y a un intérêt évident. On le veut d'ailleurs prendre cette séance plutôt comme une séance de travail. Et on en parlera tout à l'heure. Quelqu'un a dit comment essayer de faire en sorte que l'esprit vendéen souffle sur nos territoires. Voilà, c'est peut-être le thème de l'après-midi. On verra ça. Tout d'abord, je voulais présenter quelques excuses, parce qu'il y a eu quelques incidents techniques, entre autres, enfin, de santé, un peu, entre autres. Mais pas trop grave, je vous rassure. D'une part, Didier Moreau, non, c'est pas un problème de santé, c'est qu'il a dû s'absenter parce qu'il avait des obligations. Jean-Marc Neveu, bah lui, il a mis sa main dans un ventilateur il y a une journée. Et donc, évidemment, il a dû aller aux urgences. Bon, ça va, ça, c'est pas très grave, je vous rassure. Mais il a des points de suture et évidemment des agrafes. Donc, on l'excusera. Mais il est représenté d'une certaine façon par quelqu'un qu'on peut qualifier, qu'il qualifie lui-même, Florent Blain, de directeur culturel de son entreprise. Donc, justement, c'est ça l'intérêt pour nous. C'était précisément comment faire le lien entre la culture et une entreprise. Et là, on a un exemple très concret avec des pistes de travail déjà élaborées, d'ailleurs, et qui vont se développer. Deuxième excuse également, monsieur Cédric Labruni, qui a dû, lui, partir. Il était avec nous au début du repas. Et il a dû nous quitter précipitamment parce que sa fille a eu un accident au centre équestre. Et il a dû la rapatrier aux urgences rapidement. Donc voilà. Alors Cédric, je suis désolé. Bon, ça, c'est pas le vendredi 13, mais vendredi 1er juillet. Donc j'espère qu'on en restera là. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, je remercie les trois personnes qui sont à la tribune. Je vais leur laisser le soin de se présenter. On va mettre ça sous le vocable éducation au sens large, mais chacun précisera bien sa mission. Et justement, on va commencer cette table ronde par ce problème, cette question au fond, plutôt qu'un problème. Comment lier l'éducation avec le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat? Donc, je vous laisse le soin à tous les trois. Je ne sais pas qui veut commencer. Christophe, la Ménil ou monsieur. Voilà.
1, 2, ça marche. Oui, alors pour se présenter, donc Christophe Ramblière, rectorat de Poitiers, chargé de mission auprès de la délégation académique à l'enseignement technique, chargé de mission plus particulièrement depuis le mois de mars sur la création de comités écoles. Entreprise, comités locaux, école, entreprise.
Dorothée Ménil, proviseure adjointe du lycée général Cordouan de Royan. Précédemment, j'étais donc proviseure adjointe en Vendée sur un lycée polyvalent où il y avait une structure lycée général, lycée professionnel, lycée technique. Et avant ça, dans l'Académie de Versailles, dans un lycée des métiers de l'automobile.
Voilà, Christian Touzeau, je suis, comme on dit, principal honoraire, c'est-à-dire à la retraite. Donc, j'ai été chez l'établissement pendant une trentaine d'années dans des lycées, dans des collèges. Donc, j'ai terminé à La Tremblade, ce qui était un lieu bien agréable. Et depuis de nombreuses années, c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, j'ai été président de l'AFDET, Association française pour le développement de l'enseignement technique. J'ai été président de cette association en Charente-Maritime pendant de nombreuses années. J'ai un petit peu passé la main et je suis maintenant vice-président de l'AFDET. Donc on est sur une association de loi 1901, une ONG, qui a comme mission essentielle de travailler à la relation école-entreprise. Donc je consacre une partie de mon temps libre à travailler avec sur le territoire au plus près sur cette relation école-entreprise. Donc l'intérêt, c'est que j'ai les libertés de parole par rapport à l'éducation nationale, ce qui est assez confortable. Donc on est moins dans la langue de bois obligatoire, ce qui peut arriver. Et puis en relation avec le monde entreprise. Je dis ça pour taquiner mes voisins qui sont dans la maison.
Alors ce qu'on vous propose, c'est pour répondre à la commande de Jean-Pierre, c'est de travailler un petit peu sur cette côté créativité des territoires, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour montrer que l'éducation nationale participe aussi à cette créativité du territoire. Et l'éducation nationale, depuis de nombreuses années, s'est intéressée aux relations avec le monde économique, et plus particulièrement depuis depuis le début de l'année dernière. Le ministère a souhaité développer et renforcer ce lien entre les écoles et l'entreprise avec 12 mesures phares qui ont été annoncées par la ministre, dont 3 que j'ai ressorties ici. La première, c'est la création de pôles de stage, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est faciliter les stages d'entreprise des élèves. La deuxième, c'est un pilotage national de ce réseau-là école-entreprise. Et puis, la dernière sur laquelle on va insister aujourd'hui, c'est sur la création de comités locaux école, entreprise, et je dis bien comités locaux, c'est peut-être là que la créativité va être la plus forte et la plus annoncée. Ces relations école-entreprise, pourquoi faire ? Je crois que l'objectif pour nous, c'est d'éclairer au mieux les choix d'orientation des élèves dans les établissements scolaires. On se rend compte qu'il y a un déficit important d'ambition, de connaissances, à la fois des élèves, des familles, mais aussi et surtout du monde enseignant, de l'existence du milieu économique, des métiers existants sur le territoire, des possibilités de carrière que l'on peut faire. Et quand cet encadrement-là auprès des jeunes ne connaît pas toutes ces perspectives ou toutes les possibilités ou tous les parcours que peuvent avoir les gens dans le domaine économique, ben c'est vrai que c'est difficile d'accompagner des élèves pour faire les bons choix. Donc on est resté et on reste encore sur des choix qui sont liés à notre culture en France, disant toute une classe d'âge au niveau du bac, puis après la faculté, puis après souvent retour à la case départ. Et on va refaire un apprentissage au plus près du terrain pour répondre à une demande particulière d'une entreprise. Donc on a certainement des modèles à changer. Et l'objectif de ce rapprochement école-entreprise, notamment des comités locaux, c'est bien de s'imprégner des besoins locaux, des attentes, du développement économique sur les territoires. Alors les objectifs d'un comité local école-entreprise, c'est quoi ? C'est de faciliter le lien entre ce monde de l'éducation nationale et le monde de l'économie et fédérer l'ensemble des acteurs sur un territoire en ayant un objectif très clair qui est de porter des actions concrètes sur ce territoire au plus près du terrain et au plus près des attentes des acteurs locaux. Et puis le deuxième point que je le mets en avant, c'est que bien souvent sur les territoires, quand je rencontre les chefs d'établissement ou les chefs d'entreprise, on me dit mais on fait déjà beaucoup de choses. Voilà, on a déjà des actions qui existent, on a déjà des chefs d'entreprise qui viennent nous voir. Et puis on se rend compte que quand le chef d'établissement est muté, et bien d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et donc l'intérêt du comité local sur un bassin de vie, c'est de regrouper tous ces acteurs-là pour pérenniser dans le temps tous ces partenariats-là, à la fois les partenariats avec les clubs d'entreprise, mais aussi le travail en réseau des gens de l'éducation nationale et des chefs d'établissement de l'éducation nationale. Alors un CLÉ, c'est un regroupement qui regroupe les gens de l'éducation nationale, les chefs d'établissement de collège, de lycée, les centres d'information et d'orientation, le monde de l'économie, donc les entreprises, les clubs d'entreprise, les organisations patronales, associations, chambres consulaires. On y associe aussi souvent des gens qui ont une compétence territoriale en matière d'emploi, d'insertion, de formation, je pense aux missions locales, aux maisons de l'emploi, et éventuellement les collectivités locales, quand ces collectivités, le territoire de la collectivité locale couvre bien le bassin de vie, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Donc on essaye de travailler en fonction des bassins de vie. Et la démarche des clés, c'est un petit groupe d'initiateurs, souvent un chef d'entreprise, un chef d'établissement, qui pilote et qui anime ces comités pour pouvoir mettre en place et porter des actions concrètes sur un secteur géographique déterminé. Alors sur le secteur géographique, ça a été un petit peu compliqué quand on a commencé, tout simplement parce que tout le monde a fait son découpage sur l'académie. Donc il y a les découpages des collectivités territoriales, il y a des découpages de l'éducation nationale, ce qu'on appelle les réseaux éclore, qui ont été découpés en mettant tel établissement, avec des zonages qui ne sont pas les mêmes que ceux des cantons non plus. Il y a le découpage des chambres consulaires, il y a le découpage des centres d'information et d'orientation, ce n'est pas les mêmes non plus. Il y a le découpage de la formation continue qui est encore différent, ou du réseau focal qui est encore différent. Voilà. Bon, donc nous, on a repris
repris un petit peu tout ça. Là où on pouvait s'appuyer sur des réseaux qui existaient, qui étaient cohérents, on s'est appuyé dessus. Et puis, bien souvent, on est parti du terrain en se disant bah, quels sont les gens sur le terrain qui sont intéressés, passionnés et qui ont envie de porter ce projet-là. On a commencé par les gens volontaires. Et puis, bah, à partir des gens volontaires sur un territoire, on leur a dit bah, « C'est quoi votre bassin de vie ? Comment vous fonctionnez ? Vos salariés viennent d'où ? Votre marché, il est où ? Vos élèves, ils viennent d'où ? Les familles, elles vont où aussi en termes de courses ou de développement économique ? » Et donc, on a essayé de redéfinir les territoires. Et on s'est retrouvé avec des territoires qui n'étaient pas forcément bien en phase avec le découpage administratif que l'on a aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques exemples. Royan, je le laisserai à ma collègue qui présentera. Sur Rouillac, par exemple, bah, tout ce monde est parti du secteur de Rouillac pour associer Saint-Amand-de-Boixe, Mansle, Villefagnan. Et puis Villefagnan, donc le Nord-Charente, a dit « Ah ben moi, je suis à moitié sur ce secteur-là, à moitié sur le côté Civray. Et donc, je vais faire les deux. » Et donc, on est resté sur des structures très souples qui permettent aux chefs d'établissement et aux chefs d'entreprise de pouvoir naviguer et venir prendre des idées un petit peu partout. Le secteur de Civray, le clé de Civray sur lequel on travaille actuellement, est intéressant parce que là, on s'est retrouvé à cheval sur trois départements. La commune de Sauzet-Vaucé, par exemple, et les entreprises de Sauzet-Vaucé disaient ben « Nous, on se sent vraiment à l'écart de tout. » Et les chefs d'établissement aussi. On était à l'écart parce qu'au bout d'un département, au fin fond d'un département, et on s'est rendu compte que ben, la proximité avec Ruffec, avec Civray, avec donc sur d'autres territoires, d'autres départements, permettait de créer une vraie richesse, une vraie dynamique territoriale. Et là, on est vraiment dans de la dynamique territoriale. Parce que les chefs d'entreprise ne se connaissaient pas, parce que les clubs d'entreprise ne se connaissaient pas, parce que les chambres consulaires ne travaillaient pas ensemble, parce que les chefs d'établissement n'étaient pas dans le même réseau, alors qu'ils sont tous à moins de 15 km les uns des autres. Voilà. Et on est sur un bassin de vie existant qui est interdépartemental dans ce cadre-là. On est en train de travailler sur Chalais, le sud de Charente, là aussi, qui va s'élargir sur la Charente-Maritime, avec des territoires en Charente-Maritime qui sont complètement isolés. Sur Saint-Jean-d'Angély, par contre, on est sur un secteur qui colle vraiment à la communauté de communes, qui colle au bassin de vie, qui colle au réseau de l'éducation nationale. Et sur Sainte, c'est un travail qui existait déjà, sur lequel on est en train de monter. Donc ça fait une carte qui est en train de se constituer, tout doucement, à la fois ce qu'on appelle les clés et puis les pôles de stage, mais qui reviennent un petit peu au même, c'est comment je mets sur ces territoires-là ensemble ces deux mondes que sont le monde de l'éducation nationale, le monde de l'entreprise, pour développer les contacts, d'une part pour que les chefs d'entreprise comprennent un petit peu le système de formation et amènent un petit plus au niveau de la formation et de la connaissance de l'entreprise, de la dynamique économique, mais aussi fassent découvrir l'ensemble des métiers qu'ils ont aujourd'hui ou des métiers dont ils vont avoir besoin demain pour donner envie à la fois aux familles, aux enseignants et aux élèves de choisir peut-être d'autres orientations ou au moins de motiver pour les orientations et la formation qu'ils sont en train de porter. Voilà ce que je pouvais présenter. Je ne vais peut-être pas aller trop loin sur la présentation. On va prendre les autres exemples. Ce sont quelques exemples d'actions qui sont portées aujourd'hui dans le cadre du renforcement des relations école-entreprise, que ce soit les rencontres, les témoignages, les forums des métiers, les visites d'entreprise, les classes en entreprise. On a des élèves qui sont partis pendant deux jours dans une entreprise, faire classe dans l'entreprise, et les cours de maths étaient en lien avec le travail fait dans l'entreprise, les cours de français aussi, les projets de concours, toute l'opération qui est en train de se développer beaucoup, de filmer les activités et les métiers qui sont sur mon territoire et de mettre en commun toute cette base de données sur les outils numériques et réseaux sociaux notamment, qui permet à tout le monde de voir qu'il existe aux portes de chez nous une entreprise qui fait des choses et des métiers qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est jamais rentré dans l'entreprise et donc on ne sait pas. Voilà très rapidement ce que sont les comités locaux entreprises qui démarrent. Voilà, qui sont en train de se développer, qui ont pour vocation à couvrir l'intégralité du territoire et de l'Académie de Poitiers, avec des difficultés qui seront claires sur les agglomérations notamment, parce que c'est vrai que ça entraîne tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Néanmoins, il faudra qu'on mette en commun un certain nombre de choses, parce qu'on ne peut pas diviser le territoire d'une agglomération, c'est un bassin de vie à lui tout seul, et donc il faut forcément que tout le monde travaille ensemble sur ce bassin de vie. Au moins harmoniser les périodes de stage, harmoniser les outils qui permettent de travailler avec les entreprises. Voilà, et ben c'est tout pour moi. Et puis on va donner la parole tout de suite à l'expérience du clé de Royan, qui lui a commencé déjà depuis quelques années.
Donc effectivement, le clé de Royan a commencé en juillet 2014. J'étais nommée en septembre 2013 dans l'établissement. Et pendant un an, il y avait des réunions de travail en liaison entre le monde économique et l'éducation nationale, chapeautées en fait par l'AFDET, où il y avait un certain nombre d'actions. L'association pour l'enseignement technique. Enfin, je le fais un peu court. Donc, et beaucoup d'actions qui étaient mises sur le territoire pour faire connaître des entreprises essentiellement industrielles et aussi pour organiser un forum des métiers à destination des collégiens. Venant d'autres académies où j'avais connaissance des comités locaux école entreprise, j'ai proposé en fait à l'équipe la mise en place d'une structure pour qu'elle soit lisible, reconnue. Et ce que disait monsieur Ramblière en préalable, c'est pour qu'il y ait une entité qui soit en fait affichée. Donc au sein de l'éducation nationale, il existe, nous avons un texte dans le bulletin officiel qui crée en fait, qui explique le fonctionnement des comités locaux école-entreprise. Donc en juillet, nous mettions en place ce fameux comité sur le territoire de Royan. Donc nous allons un peu repartir en arrière parce qu'il y a des historiques et il y a un contexte très précis. Donc l'historique, c'est ce que je disais au préalable, des actions régulières sur des initiatives individuelles, donc soit des chefs d'établissement dans leur collège ou essentiellement en collège d'ailleurs, très peu sur le lycée général. Une volonté de pérenniser donc des liens et une démarche existante toujours orientée en fait dans la démarche de découverte des métiers pour les élèves dans le cadre de leur formation. Et un certain nombre d'actions qui étaient mises en place sur une année scolaire où le lycée général n'était pas du tout partie prenante et où le lycée professionnel qui expliquait qu'ils avaient déjà en fait un réseau de partenaires économiques suffisamment conséquent dans la mesure où il y a la formation professionnelle obligatoire pour les élèves. Nous avions un contexte, on va dire, national qui nous aidait aussi pour mettre en place le clé, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'éducation nationale, en octobre 2013, nous avions l'installation du Conseil national éducation-économie. Ensuite, à proprement parler, pour l'Académie de Poitiers, nous avons en fait le renouvellement de la convention entre monsieur le recteur et le MEDEF pour justement pérenniser la relation école-entreprise. Et comme on vous l'a expliqué précédemment, l'Académie de Poitiers, au niveau de l'éducation nationale, à la date d'aujourd'hui, est répartie de ce que l'on appelle réseau Éclore. C'est développer en fait tout le parcours de l'élève à partir du premier cycle, du premier degré, c'est-à-dire dès son entrée à l'école maternelle, et faire en sorte que jusqu'à sa sortie, non pas du secondaire, mais des études supérieures, il y ait tout un suivi de cet élève-là dans son parcours. Et les réseaux Éclore sont mis en place aussi au niveau de l'Académie de Poitiers pour favoriser les liaisons intercycles. Donc faire en sorte qu'il y ait le moins de ruptures et qu'il y ait une vraie continuité dans le parcours de l'élève. Donc du coup, en fait, cette mise en place de réseaux était aussi facilitateur puisque ça partait d'un territoire. Un réseau Éclore regroupe les collèges d'un même territoire, le lycée professionnel et le lycée général. Donc ce qui était facilitateur, vous avez la petite carte en fait du réseau Éclore de Royan, c'est que ça correspondait, coup de chance, au territoire local économique et en même temps sur le territoire des différents cantons. Donc du coup, on s'est dit, là, le contexte idéal pour travailler sur une relation école-entreprise, c'est vraiment de s'appuyer sur le contexte local. Les objectifs, vous l'avez déjà dit en introduction, c'est travailler sur la relation, on va dire, l'adéquation formation-emploi. Ce qui est très important, c'est permettre aux élèves qui sont en formation au collège et au lycée de leur montrer ce qui existe sur leur territoire d'un point de vue économique. Nous avons aussi les stages pour les élèves de 3e, où la plupart du temps, ce sont les parents qui cherchent un stage, mais on va chercher le coiffeur à côté de chez soi, on va chercher la banque, mais on ne va pas penser à des métiers nouveaux, des métiers insolites, ou d'essayer d'aller chercher beaucoup plus loin qu'à côté de son domicile. Donc là aussi, c'était très intéressant. Et c'était aussi apporter une ouverture d'esprit et une connaissance du monde économique local en termes de marché de l'emploi. Alors, c'est peut-être mal approprié le mot marché de l'emploi, mais en tous les cas, en connaissance de métiers existants sur le territoire, mais peut-être aussi en devenir en fonction du développement du territoire. Et là, toujours, c'est proposer des actions concrètes, mais qu'ils ne sont pas issues uniquement de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui soit engagée entre les chefs d'établissement, parce qu'un chef d'établissement va travailler avec ses équipes d'enseignants, mais aussi du coup avec les entreprises locales. Les actions qui ont été mises en place sur le clé de Royan, ça a été dans un premier temps en direction des élèves de proposer simplement des visites d'entreprises encadrées. Et ensuite qu'il puisse y avoir un partenariat entre une entreprise et un établissement scolaire, qui est une forme de parrainage pour vraiment qu'il y ait tout un suivi, c'est-à-dire qu'au niveau du collège, il y a un travail qui soit fait d'un point de vue pédagogique sur qu'est-ce que le monde économique, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette entreprise, qu'il y ait un travail pour pas que les élèves arrivent en se disant « je ne sais pas pourquoi je suis là, c'est la sortie de l'année » et qu'il n'y ait aucune préparation en amont. Et en même temps, que les enseignants puissent venir aussi voir les élèves travailler dans l'établissement pour qu'il y ait en fait une relation la plus rapprochée possible. Donc il y a vraiment cette notion, non pas simplement de visite et je me déplace dans un endroit, mais qu'il puisse y avoir une relation pédagogique en échange. Et ensuite, nous avions proposé en direction des personnels, donc que ce soit des cadres. Alors quand je dis cadres, on avait imaginé dans un premier temps aussi bien les directeurs d'école que les chefs d'établissement. Voilà. Je ne vais pas dire les inspecteurs parce qu'ils sont répartis sur toute l'académie, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais même les enseignants, de faire un temps d'échange avec ce que représente la posture de chef d'entreprise, ou si ce n'est pas un chef d'entreprise, ça peut être un salarié d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enseignants avec lesquels nous travaillons au quotidien puissent retourner à un moment donné dans leur carrière sur, moi je vais dire les mots tels quels, sur la vraie vie et la réalité et non pas enfermés que dans ce sanctuaire que représente l'école. Et du coup, on s'était dit, alors on appelait ça 24 heures avec, ça peut sembler très long le 24 heures avec, ça peut être 4 heures, 2 heures, enfin voilà. Du coup, on a eu... Oui, il y a la nuit entre-temps, c'est pas non plus « vie ma vie ». Voilà, comme on nous a dit, c'était absolument pas dans cet esprit-là, mais c'était à un moment donné que des enseignants puissent aller voir, je ne sais pas, quel est le métier du directeur d'hôtel lorsqu'on a la moitié de sa classe qui dit « je voudrais travailler dans le tourisme ou dans le milieu de l'hôtellerie » et qu'en même temps, quand on est dans une entreprise, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font en fait en cours avec les élèves ?» Pourquoi ils et quand ils se rendent compte qu'ils ont 30 collégiens en phase 2 et que la moitié écoute et que les autres font autre chose, et qu'il puisse y avoir aussi un échange, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous au sein de l'éducation nationale et inversement, nous en tant que prof, qu'est-ce qu'on peut prendre chez vous qui puisse nous être un petit peu utile. C'est très compliqué d'être mis en place. On a simplement un binôme qui a été formé en fait sur les 3 ans. Nous avons 2 enseignants qui ont demandé en fait à faire cette action-là. Malheureusement, on s'est trompé de cible au niveau de l'entreprise et on a eu une fin de non-recevoir, ce qui était quand même fortement dommage. Pour que ça fonctionne, on l'a dit aussi, l'intérêt en fait de créer un clé en dehors d'une entité. Alors, je tiens à le préciser que ce n'est pas du tout une entité juridique. C'est simplement, on va dire, une enveloppe qui constitue un certain nombre de personnes volontaires qui ont envie vraiment de travailler sur cette relation et sur cette liaison du monde de la formation avec le monde économique. Maintenant, effectivement, cette enveloppe, quand elle existe, elle permet qu'en cas de départ d'un des membres, il y ait quand même une pérennité. Quand on l'a présentée sur le territoire de Royan, moi, j'ai employé le terme de lisibilité, de pérennité et de constitution d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, bien évidemment, on parle de liaison école-entreprise. Donc, il ne faut pas que ce soit piloté uniquement par des personnels de l'éducation nationale. Il faut que ce soit piloté et que les réunions soient animées. L'idéal, c'est en binôme, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un représentant du monde économique avec un chef d'établissement sur l'animation. Et ensuite, sur les comités de pilotage, bien évidemment, qu'on puisse prévoir un certain nombre de personnes. Donc, sur le territoire de Royan, il y a deux chef d'établissement. Pourquoi on a fait deux? Parce que pour que les personnes puissent être interchangeables en fonction de nos agendas, quoi. C'est surtout ça, et que les dates retenues de réunion, elles aient quand même lieu, même si l'un d'entre nous n'était pas disponible. Donc deux membres de l'éducation nationale, deux membres du monde de l'entreprise. Donc là, nous nous sommes appuyés sur le seul club d'entreprise sur Royan qui existe à la date d'aujourd'hui. Là, nous sommes en train de faire appel à des membres du club Seudre Océan, voilà, qui est un petit peu plus au nord du territoire. Et nous avons le directeur de la mission locale et de la maison de l'emploi qui est partie prenante du comité de pilotage. On parlait aussi des collectivités territoriales. Nous avons un représentant de la communauté d'agglo qui est présent dans le comité de pilotage et pour lesquels on réfléchit. Voilà, c'est vraiment le comité de pilotage, c'est la phase de réflexion, d'élaboration, des calendriers, toujours à N-1. Donc on anticipe les actions un an avant, comme ça, ça permet de prévenir en fait tout notre réseau des actions que nous allons mettre en place, mais aussi ça permet aux chefs d'établissement de présenter dès la fin de l'année scolaire ce qui va être fait sur la prochaine rentrée, et du coup que ce soit inscrit ouvertement dans les calendriers scolaires et dans le fonctionnement de l'établissement. À la date d'aujourd'hui, sur le bilan des 3 ans, ce qui fonctionne très bien, ce sont les conférences sur la présentation des différents métiers sur le territoire. Donc, on a travaillé sur le milieu du tourisme, on a travaillé aussi sur casser des stéréotypes sur l'égalité filles-garçons, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, sur les métiers féminins, nous avons fait venir des témoignages masculins et sur les métiers masculins, des métiers féminins. On essaye aussi de développer le monde sur l'ingénieur. Donc là, je laisserai Monsieur Touzeau en parler. Qu'est-ce qu'on a travaillé encore sur les métiers de la culture? Enfin voilà, on essaye de monter la santé aussi. On a 4 conférences sur l'année à destination de tous les collégiens du territoire et de tous les lycéens. Ce qui a été novateur sur le territoire de Royan, c'est que l'animation soit faite par le proviseur adjoint du lycée général. Et que ce ne soit pas le lycée professionnel qui chapeaute ça, parce qu'effectivement, sur les diapositives précédentes, on voyait qu'en fait, il y a une implication de fait et naturelle des lycées professionnels, des collèges, parce que forcément, les élèves sont formés à l'orientation et en interrogation sur qu'est-ce que je fais après le collège, où je vais, dans quelle formation, pour quelle étude et pour quel métier. Sur le lycée général, la plupart du temps, on attend où les enseignants ou les parents d'élèves dire, de toute façon, la vraie vie, l'insertion professionnelle viendra dans 10 ans, dans 15 ans. Sauf que ce n'est pas le cas. À un moment donné, il faut toujours être en relation avec ce qui se passe à côté. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va essayer de tenter de répondre à vos questions. Christian, tu
peux rajouter un petit mot ? Oui, donc par rapport aux clés qui a été présentée, donc la démarche de la VDET que je représente ici, ça a été de dire que finalement on était sur un engagement éducation nationale qui allait pour nous complètement dans le bon sens, puisque notre raison d'être, c'est travailler concrètement à cette liaison école-entreprise, puisque dans notre association, il y a à la fois des gens du monde de l'entreprise et des gens du monde de l'éducation et de la formation. Que ce soit des chefs d'établissement de l'enseignement public, privé ou des centres d'apprentissage. Donc on est sur une démarche, je dirais, largement ouverte au niveau des points de vue. Ce qu'on n'aime pas, ce sont les choses un peu sclérosées et monolithiques. Donc sur cette démarche-là, Donc c'est vrai que le clé, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a un certain nombre de... Sur les territoires, il y a un certain nombre d'organisations qui fonctionnent, qui ne s'appellent pas des clés, mais qui en ont tout à fait la couleur, un petit peu comme pour le Canada Dry. C'est-à-dire que dès l'instant où on réussit à mettre de façon pérenne, ensemble, des gens de l'éducation, des gens de l'apprentissage, des chambres de métiers, des CCI, des politiques, des maisons de l'emploi, des missions locales, évidemment les chefs d'entreprise, hein, à travers les clubs d'entreprise aussi. Si ensemble, on arrive à communiquer aux enseignants, aux chefs d'établissement, d'entreprise, aux jeunes, si on arrive à leur dire un petit peu ce qu'est le monde de l'entreprise et comment l'enseignement technologique est une voie d'excellence et pas une voie de garage, c'est une voie dans laquelle il y a énormément d'exigences pour réussir. Donc si on est sur ce cheminement partagé, d'expliquer à des jeunes qui n'en ont pas l'idée de ce qu'est une entreprise, de ce que sont les métiers, dans ce sens-là, on a effectivement pas mal avancé. Donc c'est tout à fait le sens du clé, c'est-à-dire que c'est amener des enseignants à découvrir ce qu'est l'entreprise, comment elle fonctionne, amener des jeunes à découvrir ce que sont les métiers, comment on y accède, comment les métiers évoluent tout au long de la vie, comment la formation se capitalise, comment l'expérience joue autant que la formation initiale. Quand on est sur des schémas comme ceux-là, c'est vrai qu'on est, nous, sur notre raison d'être. Donc l'AVDET, évidemment, est tout à fait dans ce développement. Donc on est structuré au niveau national. C'est une association nationale loi 1901. L'association doit avoir une centaine d'années. Je ne sais plus par cœur la date de création. Et on est structuré. Là, on s'est restructuré au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Ça y est, c'est fait. Pour être en relation avec les collectivités territoriales, avec la CGPME en particulier, avec le MEDEF, avec on est la Fédération du bâtiment et adhérente de l'AVDET, avec EPA, Entreprendre pour apprendre, j'ai vu quelqu'un d'EPA était là. Donc on est sur des démarches qui font qu'on a besoin de travailler ensemble, sans esprit de boutique et de chapelle, dans l'intérêt des jeunes, pour leur emploi et leur réussite. C'est vraiment ce qui motive, c'est la réussite des jeunes. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'ait pas de jeunes qui sortent sans qualification avant qu'on leur ait dit totalement qu'il y a des métiers extrêmement intéressants et exigeants qui sont méconnus. Donc on est sur ce travail de connaissance, de reconnaissance et de valorisation de cette voie technologique et professionnelle. Donc le clé, c'est complètement ça. Quand ça a démarré à Royan, donc moi j'étais encore chef d'établissement, j'avais rencontré l'élu du territoire en lui disant quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps et je veux bien m'engager avec l'association sur le terrain pour aider les jeunes à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc tout de suite, la communauté d'agglomération a dit oui, effectivement, c'est intéressant et ils sont effectivement très présents sur le développement des clés. Donc, ce que disait le collègue du rectorat, c'est que si au niveau du grand territoire, on est sur une volonté partagée d'avancer sur des connaissances mutuelles, des reconnaissances mutuelles au-delà de la connaissance, et l'avancée dans l'intérêt des jeunes, c'est vrai qu'on aura fait une avancée, je pense aussi, dans la réduction du chômage et des difficultés d'insertion des jeunes. C'est vraiment ce qui motive. Hein. Ce sont les jeunes qu'il faut faire avancer. Et ce n'est pas en étant chacun dans son petit territoire, en disant l'éducation nationale, je ne veux pas connaître l'entreprise, et l'entreprise, je ne veux pas connaître l'éducation nationale. Ce n'est pas comme ça qu'on avancera de façon concrète et efficace avec les jeunes. Alors juste une dernière petite chose sur les 24 heures avec dont vous parliez, c'est ce temps d'échange. Quand j'étais chef d'établissement, donc à deux reprises, j'ai participé à ces expériences 24 heures avec des chefs d'entreprise. Donc j'ai partagé 24 heures et même plus, tellement on avait des choses importantes à découvrir. Parce que que tout à l'heure j'entendais 24 heures, mais ça peut être 4 heures, ça peut être 2 heures. Non. Quand on prend le temps de se poser avec un chef d'entreprise, qu'un chef d'entreprise prend le temps de se poser avec un chef d'établissement, 24 heures, c'est trop court. Moi, j'ai découvert donc le patron d'une entreprise textile à Saint-Jean-d'Angély. C'était extrêmement intéressant, parce que j'ai compris que les stéréotypes que j'avais sur la délocalisation des emplois, c'était une vision purement intellectuelle que j'avais. Quand il m'a expliqué et que j'ai vu dans le détail, quand il m'a montré ses comptes, quand il m'a expliqué les choses sur le fond, comment il était obligé de sous-traiter une petite partie en Tunisie pour sauver les emplois de Saint-Jean-d'Angély. Donc, 24 heures, c'était trop court. Quand tu es venu dans mon gros collège et qu'il m'a dit « Mais comment faites-vous pour gérer un établissement scolaire en n'ayant pas choisi vos collaborateurs ?» Là, il est tombé de haut. C'est-à-dire, comment peut-on diriger une entreprise comme la vôtre ? Bon, il y avait une centaine de profs. Comment peut-on diriger tout ça alors que vous n'avez choisi personne et vous n'avez pas de pouvoir de licencier si jamais les gens sont défaillants ? Donc, sur cette connaissance réciproque, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis la deuxième expérience que j'ai eue, qui a aussi duré plus que 24 heures, ça a été une rencontre importante pour moi, et je pense pour le cadre de l'entreprise que j'ai rencontré aussi, c'était le DRH de Cop Atlantique, donc à Sainte. Donc il m'a expliqué un petit peu sa carrière, les tensions à gérer, la gestion des personnels, nous la gestion de nos personnels. Et c'est vrai que prendre le temps d'échanger, que ce soit une grosse entreprise, une PME ou un artisan, parce que moi, je côtoie bien des artisans dans le cadre de l'AFDET, hein, des gens qui sont en activité. Quand je discute avec un plombier qui est adhérent de l'AFDET et qui m'explique la difficulté qu'il a avec les marchés qui sont pris par des gens qui viennent pas de France. Et voilà. Donc quand il explique ses tensions ou les charges sociales, quand il explique les choses, c'est vrai que ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on a besoin à l'éducation nationale, et je pense que les chefs d'entreprise ont besoin aussi, de savoir comment les uns et les autres fonctionnent avec leurs contraintes. Et je pense que, enfin, mon rêve, ce serait que les enseignants puissent passer tous un temps dans l'entreprise, pour que du coup, le discours qu'ils puissent tenir à leurs élèves soit un discours de vérité, en disant on n'est pas sur des stéréotypes, on est sur des choses concrètes, on est sur des compromis à avoir, des choses à faire avancer sur une culture d'entreprise qu'on partage, qui est la culture française d'une certaine façon. Voilà ce que je voulais dire de façon un petit peu rapide. Mais ça, pour moi, c'est le fonds de commerce du clé. Cette connaissance et cette reconnaissance des deux mondes qui ont tout à gagner. Quand j'étais jeune professeur, je suis économiste de formation, quand j'étais jeune enseignant, ça a étonné, j'étais professeur de sciences sociales, ça a étonné mon proviseur, j'étais en région parisienne, que j'aille à la médiathèque, ça s'appelait Cinémathèque à l'époque, du MEDEF, chercher des documents qui étaient extrêmement intéressants sur la réalité du monde de l'entreprise. Alors, quand je ramenais mes grosses bobines, à l'époque, c'était pas des clés USB ou des choses comme ça, quand je ramenais mes documents, ça interpellait quand même les élèves. Ils avaient une vision de l'entreprise, je dirais, très différente, très concrète. Et c'est vrai qu'on a des supports, les entreprises ont des supports qui sont à développer, qui sont à communiquer. Et à l'AFDET, on a des collègues dans les différents champs professionnels qui ont des supports passionnants. Hein, on montre ça à des gamins, on discute avec un professionnel. Les gamins, ils veulent tout de suite entrer dans l'entreprise. Hein, c'est voilà. Voilà, donc je ne vais pas bavarder plus.
Merci beaucoup. Peut-être des questions à ces trois intervenants dans un premier temps ou des réactions. Moi, j'en aurais deux pour prolonger un peu. C'est quid de la grande région par rapport aux clés ? C'est-à-dire, il y aura des clés en ex-Limousin, en ex-Aquitaine. Comment ça fonctionne ? Je suppose que c'est un dispositif national. Et mini-entreprise, on en a un peu parlé. Jean-Marc Neveu n'étant pas là, comme il était vice-président de PA Poitou-Charentes, il en aurait mieux parlé que moi, mais il m'a délégué en quelque sorte au dernier concours à Niort. Et moi, j'ai été surpris, je connaissais déjà un peu, mais par le nombre de projets, il y en avait 60. 1000 gamins dans ce parc des expositions de Niort, fabuleux, quoi. Je veux dire, là, il y a une richesse et un potentiel, à mon avis, à ne pas perdre. Donc EPA aussi, dans la grande région, comment ça se passe ?
On est sur des mesures nationales, donc elles sont censées être développées sur les trois académies, donc sur la région. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps, dans ce domaine-là, à la fois aux académies de mettre en place les choses. Il y a un certain nombre de mouvements aujourd'hui, notamment la réforme du collège qui n'a pas facilité la démarche mise en place des clés cette année. On ne peut pas tout faire à la fois non plus, donc il faut prendre les choses les unes après les autres. La région se met en place aussi. C'est une nouvelle région avec une nouvelle politique et je suis persuadé que la région va être aussi partie prenante de cette mise en place des relations école-entreprise. Enfin, il y a tout intérêt aujourd'hui dans la démarche d'orientation des élèves et de formation des élèves. Et puis en ce qui concerne les mini-entreprises, forcément, ça a été une très belle réussite. J'espère qu'elle sera aussi importante dans les années qui viennent, parce que la réforme du collège va modifier quand même considérablement les choses et que la mise en place, la pérennisation de ce dispositif-là va être compliquée.
Peut-être je peux rajouter par rapport aux clés au niveau de la grande région. Donc, au niveau de l'AFDET, on est organisé déjà dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine. On s'est organisé dès janvier. On n'a pas perdu de temps. Notre délégué régional, donc Robert Pierron, qui est bordelais. Donc, on a échangé déjà dans le cadre du bureau de cette région. Notre priorité, c'est au niveau AFDET, favoriser le développement des clés sur la région, y compris en essayant d'obtenir, et je pense qu'on va obtenir, un certain nombre de financements pour aider les mobilités de jeunes pour aller visiter et travailler avec les entreprises. Donc ça, c'est une priorité. Donc on a déjà monté nos dossiers par rapport à ça. Donc, aider financièrement les clés sur la grande région. Ça, c'est une priorité de l'AFDET. Sur les mini-entreprises, donc l'AFDET est un des membres fondateurs de PA avec EDF. Donc, on est impliqué, évidemment, dans EPA. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important, cet engagement. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'inquiétudes par rapport à la réforme du collège ou à comment les choses peuvent se digérer, parce que ça demande une année, quand même, pour monter une mini-entreprise. Et là, on est sur des séquences semestrielles, donc il faut voir les choses. Donc, la déléguée régionale de PA, Joëlle Caru, me disait qu'on pourrait sans doute organiser un développement quand même des mini-entreprises. C'est une action qui est extrêmement intéressante, passionnante, qu'il s'agit vraiment d'encourager, que ce soit... Alors, pourquoi ? Parce que ça s'adresse à la fois... au collège, au lycée et au post-bac, puisqu'il y avait le salon, vous parliez du salon de New York, effectivement, qui était effectivement un moment extrêmement intéressant, très fort. Et puis il y a eu les start-up, le salon des start-up à La Rochelle un petit peu avant, fin mars. Donc c'est vrai que ce sont des moments qui sont importants, qui sont exemplaires et porteurs de sens. Parce que je dirais, on est à l'essence même du clé, c'est-à-dire qu'on est sur la liaison école-entreprise, sur une action concrète. C'est-à-dire que si sur un clé, on a un établissement ou deux établissements qui sont dans un engagement de mini-entreprise, ça donne du corps à un clé. Je trouve que ça donne du corps à un clé et c'est extrêmement important. Alors, il se trouve que par rapport aux mini-entreprises en Charente-Maritime, donc moi, j'ai suivi un petit peu la mini-entreprise du Collège Favre-d'Églantine de La Rochelle, c'est un établissement qui est en zone sensible, qui s'appelle peut-être plus comme ça maintenant, en zone un petit peu difficile. Donc les enfants, les jeunes, les collégiens, si les enfants ne vont pas aimer, les collégiens de 3e se sont engagés sur un projet extrêmement intéressant. Ils ont été primés à Niort sur la base de la bonne gestion. Et je trouve que ça a beaucoup de sens, que les experts comptables soient partie prenante du suivi des mini-entreprises. Et quand on dit à un jeune, à un groupe de jeunes, à un établissement scolaire, vous avez des jeunes qui ont pris en compte une démarche d'entreprise, et sous le point de vue de la gestion, c'est exemplaire et c'est remarqué, je trouve que c'est intéressant. Donc cette liaison, je dirais, école-entreprise est clé. Si en même temps, on peut la conjuguer avec un certain nombre d'expertises, je pense aux experts comptables, c'est vrai que c'est extrêmement important. Parce qu'on ne crée pas On n'est pas auto-entrepreneur comme ça. On voit des gens qui se lancent dans des actions d'auto-entrepreneurs. Voilà. Et on sait très bien que ça ne marchera pas presque dès le départ quand on voit comment les choses vont s'engager. Si on n'a pas une réflexion sur le fond, sur la gestion d'entreprise. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de pérenne hein, sur des engagements. Alors, il se trouve que sur un autre registre, excuse-moi de parler de ça, dans le cadre de l'Institut du Mérite dans laquelle je travaille aussi, on a mis en valeur les actions des mini-entreprises, des relations école-entreprise au sein du Congrès national de cette association. L'idée qu'on a et ce à quoi je vais travailler aussi, c'est que la relation école-entreprise soit relayée aussi par d'autres institutions. Parce qu'on a vraiment, il faut vraiment travailler dans ce sens-là. Donc le clé, c'est un élément fort, c'est évident, du territoire. Mais il faut qu'on ait une convergence, que ce soit à travers les syndicats professionnels, que ce soit à travers les associations, que ce soit à travers les élus. Il faut qu'il y ait convergence pour que les jeunes puissent enfin savoir ce que l'entreprise et qu'ils ne disent pas Burke quand on parle de l'enseignement technologique et professionnel. Voilà ce que je voulais dire pour compléter.
Merci. Monsieur, vous présentez en même temps puisqu'on enregistre.
Ah oui. Donc Stéphane Dodon du MEDEF Vienne, UMM. Au niveau de EPA, il y a déjà les deux associations Aquitaine, Poitou-Charentes qui sont rencontrées. Il va y avoir un rapprochement des deux pour pas que ce soit sur une même zone deux structures qui s'ignorent ou qui travaillent en parallèle. Donc ça, tout ça, ça va se regrouper. Alors, le monde économique espère vraiment que cette initiative pourra être pérenne et développée parce que c'est expliquer concrètement l'entreprise au sein de l'éducation. Et c'est vraiment là, on touche du concret. C'est pas quelque chose de vaporeux. C'est du concret et ça permet des relations directes entre les jeunes et les entreprises sur un projet d'entreprise. Et ce n'est pas simplement de la visite ou autre. Là, c'est un vrai projet dans le temps et avec chacun. Donc, en espérant que cette réforme ne soit pas... Voilà, comme quoi, par moment, vouloir faire une réforme et mettre son nom, ça peut tuer des belles initiatives.
Merci de cette précision, Monsieur Dondon.
Florent Blain, animateur culturel. Alors une question rapide. Est-ce que dans tous ces dispositifs et tous ces acronymes dans lesquels on peut se perdre un petit peu au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un volet qui est directement pour les enseignants? Est-ce qu'il y a quelque chose pour que les enseignants découvrent, eux, les entreprises de leur territoire, qui connaissent leur territoire, avant même ce genre de dispositif qui inclut les élèves?
Tout à l'heure, quand j'ai présenté une clé, j'ai dit que c'était en destination des enfants, des familles et forcément des équipes pédagogiques. Voilà. Alors, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas marqué un clé, c'est ça, on doit faire ça, on doit faire des conférences, on doit faire des 24 heures avec ou une mini-entreprise. Il y a la volonté des uns et des autres et les possibilités des uns et des autres d'organiser. Donc, il y a eu des choses de fait dans un certain nombre de territoires qui sont clés ou pas clés, peu importe. Mais on a des entreprises, des enseignants qui ont été participer à des journées de formation. On est en train de mettre en place, il y a beaucoup de clés enfin, sur ceux que je vous ai présentés. Il y en a beaucoup qui s'engagent l'année prochaine à consacrer des journées de sensibilisation des professeurs principaux. Voilà, avec une matinée découverte des filières, l'après-midi découverte des entreprises locales. Voilà. Donc alors c'est pas des formations où tout le monde va participer demain. Hein, c'est un travail sur le long terme.
Bonjour Marc Alper. Je travaille au Parc des Expositions. J'ai une question. Comment est utilisée la propre expérience des élèves par rapport au monde de l'entreprise? Ils font parfois eux-mêmes leur petit business, ils sont consommateurs, ils sont producteurs de communication avec Instagram et tout à forte dose, ils ont des parents ou des amis de parents ou ils sont en contact avec des adultes qui travaillent, ils ont déjà une expérience en fait de l'entreprise d'une manière ou d'une autre à travers leur vie, même s'ils ne l'aperçoivent pas, même s'ils n'en sont pas conscients. Est-ce que ça c'est utilisé et comment? Les élèves, dans leur vie quotidienne d'individus, ils sont amenés
Ils sont très loin. Les élèves, ils sont très très loin de la culture de l'entreprise, mais très 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 loin, des années-lumière.
Je vais vous répondre parce que c'était par rapport au sens de votre question. Tout de suite, quand on entend pré-ado, ado, tous leurs réseaux sociaux, etc., et nous, on est baignés dedans et sont noyés d'actualités, d'informations, et en même temps, ils sont incapables de décrypter la vraie information. Ça, c'était la première chose qui m'a troublée, en fait, dans votre demande. La deuxième, c'est sur la connaissance directe qu'ils peuvent en avoir de leur famille ou autre. Il faut savoir que selon les secteurs, c'est pour ça qu'on insiste énormément sur la connaissance du territoire local. Moi, j'arrive sur un département qui est la Charente-Maritime. La Rochelle, c'est très riche. Il y a plein d'entreprises, il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui se développent. Tout à l'heure, Monsieur Touzeau parlait de Rochefort, où il y a un capital industriel existant. Royan, c'est un territoire très très pauvre, et moi sur le lycée général je découvre des situations familiales où il y a très peu d'enfants en dehors du monde de l'ostréiculture, en dehors de ce milieu là ils ne savent pas ce que c'est l'entreprise, l'industrie et plein de choses comme ça. Donc il faut aussi revoir par rapport aux différents contextes. Ensuite, un élève, alors je vais dire moi je vais dire un élève, je vais pré-ado ou ado, est très loin de ce contexte de la vie économique. Il en entend parler à la maison, il en entend parler à l'extérieur, il voit peut-être encore une fois sur les informations, mais le rapprochement de la formation et du monde économique, c'est pas vrai du tout. Les parents d'élèves, je trouve qu'ils sont aussi éloignés. Enfin, c'est ce que je disais, sur après 15 ans en milieu professionnel technique, arriver dans un lycée général et regarder des parents d'élèves leur dire on met en place une relation école-entreprise, les parents en gros m'ont dit mais d'où vous débarquez, de quelle planète, nous, nos enfants sont là pour faire des études, point, de la formation. Quand même, pour tenter de répondre positivement à votre questionnement, ce dont on se rend compte, c'est que les compétences qui sont développées dans le milieu de l'éducation, à savoir les disciplines de base, que ce soit linguistique, que ce soit le français, les mathématiques, à l'heure actuelle, on prépare les élèves dans des compétences qui vont être reprises dans le monde économique. Donc du coup, à travers en fait cette connaissance qu'ils peuvent en avoir, soit quand c'est discuté en fait dans un, on va dire, milieu éducatif, familial, amis de parents, etc., mais surtout quand c'est repris au niveau du collège, le constat que nous faisions hier à travers notre bilan de cette année, eh bien, c'est que mine de rien, ces compétences qui sont développées sur les champs disciplinaires, on les retrouve au sein de l'entreprise. Et ça permet justement, quand il y a cet échange entre l'entreprise et l'école, de dire aux élèves, tu vois, tes compétences que tu as développées en français, en mathématiques, tu vas les retrouver dans les entreprises, sur tel pôle, sur telle situation, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais en tous les cas, là, on englobe quand même différentes choses, c'est-à-dire que l'élève est encore loin, à un moment donné, réellement, dans sa connaissance qu'il en a de l'entreprise, qu'il a besoin d'être relié constamment sur sa scolarité, que ce soit au collège, au lycée ou de toute façon sur le post-bac, donc sur le milieu du supérieur, et que malheureusement l'accompagnement familial n'est pas suffisant dans cette démarche-là.
Une dernière question, puis ensuite j'appellerai les trois autres intervenants, c'est-à-dire Richard Collat, les gens de Atlan-Sèvres et puis également Monsieur Dodon à rejoindre la tribune. Mais on reste encore sur les
questions. Merci, bonjour. Dorsane, milieu associatif. J'ai un petit peu peur qu'on soustrait le milieu agricole. J'ai entendu une seule fois l'ostréiculture, qui est un domaine particulier à La Rochelle ou à Rochefort. Et dans le milieu agricole, il y a également beaucoup de métiers à apprendre que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai fait visiter des centres de recherche à des gros pontes chimistes, etc. Quand je les ai mis devant l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ils ont découvert un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout. Alors, je ne voudrais pas qu'on oublie le milieu agricole. D'autre part, alors moi, je fais partie d'une autre association, et on travaille beaucoup, on essaie de travailler avec les lycées qui créent des mini-entreprises, voire même à l'étranger, puisqu'il y a des échanges qui se font à l'étranger. Et on essaie d'avoir ça, mais c'est très dur de rentrer dans un établissement scolaire qui ont déjà des programmes surchargés, hein, je crois que vous approuvez, et ben, ils ne veulent pas s'éparpiller, ce qui est un petit peu logique. Mais dans notre jargon, on aide les lycées. Les collèges, c'est trop tôt. Pour moi, les collèges, c'est trop tôt. Mais le lycée, on commence au lycée, au BTS, leur parler de l'entreprise. Et on essaye, mais on a du mal parce qu'il n'y a pas de temps consacré pour ça. Sinon, je suis d'accord avec vous. Visite d'usine, c'est rien. C'est intéressant, mais ça n'a rien à voir. Quoi. C'est pas ça. Voilà. Merci.
Effectivement, hein, le monde agricole n'est pas oublié. Après, encore une fois, il faut s'appuyer sur le contexte local et présenter sur ce qui existe sur le territoire. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur la priorité des enseignants sur les programmes et terminer les programmes pour préparer les élèves aux examens. Maintenant, il n'est jamais trop tôt pour relier l'école et la formation. C'est vrai que certaines personnes pensent que 6e, 5e, les élèves ne sont pas assez matures pour comprendre les choses. Personnellement, je fais partie de ces chefs d'établissement où je dis si dès la 6e, on travaillait sur l'orientation, la connaissance du milieu, du monde économique et que chaque année, on le faisait, on rajoutait une petite dose, etc., et ben, on arriverait peut-être à un moment donné où on aurait peut-être moins de têtes pensantes et plus de gens qui seraient les premiers à courir à trouver un emploi. Et en tant que maman, j'ai un fils qui a été initié très tôt à l'éducation, à l'orientation, au milieu économique. Et ben, du coup, là, en quatrième, pas aucun souci sur la relation formation, classe, et qu'est-ce que je fais, comment je me projette, quel type de métier, même si ça évolue hein, chaque année en fonction de sa maturité, de ses envies. Voilà.
Merci. Je vous propose donc Monsieur Collat, Madame Baudin et le président dont j'ai Monsieur Terrasson, voilà, d'Atlancem, mais je vous laisserai le soin de vous présenter plus longuement. Et puis également Monsieur Dodon, voilà, de rejoindre l'estrade. Et donc on va aborder le thème un peu de club d'entreprise, territoire, entreprise et territoire, alors un peu plus large avec le MEDEF départemental, mais au fond le département est un territoire. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, allez-y.
Bonjour. Bonjour, donc je suis Jérôme Terrasson, je suis président du club Atlancev Entreprise. On vous a préparé un petit diaporama sur qui on est et où on se trouve. Donc on va faire rapide, hein. Il y a 5-6 slides et puis après on parlera de comment aussi on travaille avec toutes nos entreprises et comment on arrive aussi à mettre des étudiants dans nos projets et à faire aboutir de ces projets grâce à nos étudiants. Donc la présentation du club, donc on est sur un espace économique qui est situé à La Crèche, pour ceux qui connaissent, c'est sur le nœud autoroutier entre l'A10 et l'A83. Donc on couvre toute la zone quand vous montez à Nantes, quand vous allez sur Bordeaux, donc au carrefour de cette zone-là, à l'entrée de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, elle est caractérisée par des noms de zones, par bassin, donc Bosset, Grandchamp, etc., où on a notre siège social aussi d'association qui est basé là. Donc la présentation du club, elle a été créée en 2007, donc on fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, l'Enseve Entreprise, c'est 77 adhérents. Et ces 77 adhérents, ça représente 1500 emplois salariés. Donc c'est toujours un petit peu ce qui pèse aujourd'hui dans notre club, c'est qu'on représente une grosse population en emploi salarié. Donc effectivement, on n'est pas dans ce club-là, on n'est pas à la recherche, on ne court pas après les adhérents. Le but du jeu, c'est que les gens trouvent sur ce club-là un lieu d'échange, de partage et de convivialité avant tout. Donc les adhérents sont tous implantés ou presque sur la zone espace économique. Sur cette zone-là, il y a vraiment des secteurs d'activité différents. On va y trouver du transport, on va y trouver de la transformation, on va travailler du travaux publics, de l'hôtellerie, des centres de formation, vraiment tous les domaines. Et on est vraiment à des tailles vraiment différentes. On voit de l'entreprise qui a un salarié, deux salariés, et on trouve aussi du 100 ou 150 salariés sans aucun problème. Et beaucoup plus aussi sur des gros groupes comme TFE, PSI. Voilà, c'est des gros groupes qui ont beaucoup de salariés. La vocation du club, c'est qu'on puisse se connaître. C'est déjà sur un espace économique, on se connaît, on se côtoie et on partage des choses ensemble. Donc au travers un bureau qui est principalement composé de chefs d'entreprise, mais aussi d'une structure d'un niveau technique où on bénéficie d'un support de la communauté de communes. Mais dans le bureau, on a des élus et des entreprises. C'est important pour nous, pour faire avancer les projets, pour nous faire avancer au quotidien. Donc le bureau est bien composé de ces deux types d'activités. Aujourd'hui, le club, il a une vocation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se connaître. Et il a une vocation, c'est qu'on puisse déjeuner une fois par mois tous ensemble. Donc tous les deuxièmes mardis de chaque mois, c'est un rituel chez nous. On s'accorde un moment convivial autour d'un repas. Des visites d'entreprise pour se connaître, pour passer un moment convivial et découvrir nos entreprises réciproques. Des rencontres thématiques qui peuvent avoir des interventions extérieures. Ça peut être la gendarmerie qui vient nous parler de la sécurité de nos sites. Ça peut être vraiment des sujets divers et variés qui peuvent nous intéresser parce que on partage les mêmes problématiques. Et l'événement fort tous les ans, c'est ce qu'on appelle notre événement ludique, où on partage vraiment un moment de convivialité une fois par an, tous ensemble, autour d'un thème qu'on a défini lors de l'Assemblée générale en général. Cette année, l'événement ludique, c'était de faire de l'hélicoptère au-dessus de notre zone, donc de partager avec nos 77 adhérents de faire des vols en hélicoptère. Et on s'est dit, on va essayer d'étendre un petit peu les choses et de faire profiter à tous nos adhérents, de pouvoir leur faire profiter pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, pour qui ils voulaient, de faire de l'hélicoptère sur la zone, donc de survoler l'entreprise de leurs clients ou fournisseurs ou de leur propre entreprise. Et on s'est fait un petit peu embarquer par le système et on s'est retrouvé à 250 personnes. Donc on a fait 50 rotations, c'est la seule journée, il a fait beau dans le mois de juin, ça tombait bien. Et on a fait effectivement sur une base de vol de 7 minutes avec deux hélicoptères, il y a eu des rotations toute l'après-midi, vraiment un gros beau temps, tout le monde super enchanté. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure pour faire baigner un petit peu les étudiants dans le monde professionnel. Tous les ans, l'événement ludique, je sollicite un lycée pour organiser cet événement. Et avec une classe, c'est leur projet de l'année. Et ils emmènent au bout ce projet-là en disant, on leur livre. On veut faire de l'hélicoptère avec 100, 150, 200 personnes. On veut faire un jeu de piste dans la ville de Niort. On veut faire... Et c'est leur projet de l'année. Et à eux de nous proposer des idées, un fonctionnement. Mais ça va de l'invitation au mailing, aux facturations, et on les suit avec Stéphanie tout au long de l'année. Et pour arriver au jour J de l'événement où ils ont invité 250 personnes, où toute la gestion est organisée, le buffet, le cocktail, les groupes, le paiement, etc., etc. Donc tout est calé, c'est leur projet de l'année, ils sont notés. Donc on essaie de les accompagner vraiment jusqu'au bout, jusqu'au questionnaire de satisfaction pour eux et leur projet. Et cette année, en plus, on a réussi avec les accords parentaux, les accords du lycée, à les emmener tous en hélicoptère. Donc ils étaient super contents. Ça a fini très très bien la journée. Donc ça, c'est tous les ans. C'est vraiment notre moment qu'on partage tous ensemble au mois de juin. C'est notre événement de zone. On est assez gaulois dans notre fonctionnement. Le but du jeu, c'est pas de faire forcément adhérer des entreprises qui n'auraient pas un intérêt de venir, d'être là, d'être présent au déjeuner. On n'est pas à la course à l'adhérent, contrairement à un gros club d'entreprise qui veut balayer un département ou une partie d'activité. Voilà. Si on adhère chez nous, si les gens souhaitent adhérer, généralement, on les intègre par le déjeuner d'entreprise en disant venez voir si ça vous tente, si ça vous tente pas, si vous y êtes bien. Et après, ils adhèrent et on fait des choses tous ensemble. Voilà un petit peu qui est Atlan Sèvres sur l'espace économique.
Oui, voilà. Donc moi, je suis Stéphanie Baudin, je suis chargée de développement économique à la communauté de communes du Haut-Val de Sèvres, là où est situé cet espace économique. Et la particularité, c'est que je donne un peu de mon temps à l'association Atlan Sèvres Entreprises. Cette association, elle est née aussi d'une volonté des élus en place en 2007 d'avoir une instance de dialogue avec les entrepreneurs de leur territoire. Donc cette association, elle est née à la fois avec la volonté des élus et des entrepreneurs présents. Et c'est véritablement un vrai outil qui est aussi mis en avant dans la stratégie économique des élus que de s'appuyer sur ce club. Donc ça, c'est très intéressant et très important. Très innovant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que ça marche plutôt bien et que le partenariat collectivité-entreprise par le biais du club est vraiment efficace.
Oui, bonjour. Richard Collat, je suis président de l'association Vivre et Entreprendre en Neuville-Ois, même si ce n'est pas le titre, c'est Vivre et Entreprendre. Elle existe depuis 27 ans, hein, depuis 1989, à l'initiative d'élus et de chefs d'entreprise. On est une soixantaine d'adhérents, des TPE, comme moi, je suis tout seul. Et puis, on a des plus gros comme APE Étiquette, Geoffrey Driot, Doucet Matelin, donc on peut monter jusqu'à 140, 150 salariés. Nos activités classiques, hein, au niveau des clubs d'entreprise, des cafés, même si nous on n'en fait plus, on n'aime plus le café. On préfère les after-work, c'est plus intéressant. Puis en même temps, les after-work, ça peut durer plus longtemps, donc derrière, on peut adjoindre un thème. Alors qu'un café, généralement même des cafés, beaucoup de chefs d'entreprise, ils vous disent 8 heures, on est déjà sur les chantiers. Donc c'est toujours les mêmes qui viennent et à un moment ou à un autre, ça tourne en boucle, c'est un petit peu embêtant. Donc avec les afterworks, ça laisse plus de temps. On peut faire du thème et ensuite un petit moment convivial, parce qu'il faut toujours un petit moment convivial pour resserrer les liens et puis se connaître entre nous, puisque il n'y a pas très longtemps, on vient de faire une soirée, normalement ça aurait dû être une soirée typiquement conviviale, qu'on fait généralement à l'Abbaye du Pin avec Bernard Tardivon. Et puis cette année, on n'a pas fait. On a fait une soirée, une partie thématique et une partie conviviale. Et puis, on avait la chance d'avoir notre dernière adhérente qui était présente, qui m'a renvoyé dès le lendemain un mail en disant qu'elle avait été enchantée, très intéressée par cette soirée-là. Hormis ça, nous faisons aussi nous organisons aussi avec le collège de Neuville le forum des collégiens. Donc on a des chefs d'entreprise qui viennent participer, qui viennent présenter leur métier. Et puis aussi depuis cette année, on a commencé à faire des portes ouvertes. On n'a pas été très gâtés par la météo, mais bon, on recommencera dans 2 ans, parce qu'on va faire ça tous les 2 ans. Sinon, au niveau de la chambre de commerce, on participe aussi à ce qui s'appelle Oser Réseau. C'est une journée business, n'est-ce pas, Philippe ? Interclub, et donc on a commencé à travailler sur la prochaine édition qui se situera dans le Mont-Morillonnais. On travaille aussi un peu avec la commune, c'est pas toujours évident. J'ai plus de contacts actuellement avec la communauté de communes du fait de la prochaine fusion des 3 communautés de communes, Mirebalais, Neuville-Ois et Vouglésien au 1er janvier 2017. Donc j'ai personnellement rencontré les 3 présidents actuels et j'ai trouvé de très très bons échanges, pas forcément avec mon territoire, mais avec le Vouglésien en particulier. J'ai trouvé que le président était très ouvert, avait de très bonnes idées et puis l'envie de vraiment que les clubs d'entreprise soient des vrais partenaires. Donc on verra bien suivant les prochaines élections du président à ce niveau-là. Ensuite, des projets. Alors les projets, c'est on avait fait un questionnaire par rapport à une assemblée générale extraordinaire. Et ce questionnaire nous a permis de sortir de petits projets concernant le développement durable. Donc ça, c'est très bien. On en avait déjà parlé avant, mais ça n'avait pas trop accroché. Donc j'étais très content qu'il y ait des entreprises qui aient répondu présentes à ce niveau-là. La mutualisation, bien, service. On va commencer par le plus basique, on va dire un peu la bureautique, la papeterie. On va essayer de passer des commandes en commun, déjà de ramettre de papier. On va commencer par là et puis on verra bien si ça veut bien prendre. Et puis ensuite, moi, un petit projet que j'aimerais bien aussi faire, c'est mettre la culture et l'entreprise. On avait un président avant qui avait initié un petit peu cette chose-là, plutôt par des expositions de tableaux dans les entreprises, des prêts de tableaux, ainsi de suite. Moi, je le ferai un peu différemment. Je le ferai aussi en même temps avec la commune, voir ce qu'on peut développer à ce niveau-là. Mais ça m'intéresserait beaucoup. Ensuite aussi, on a, du fait de la fusion des communautés de communes, au niveau des associations des trois territoires, on a décidé aussi de travailler ensemble pour être force de proposition vis-à-vis des élus. Voilà un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on risque de faire, sachant que l'année prochaine, comme on ne fait pas de porte ouverte, on a décidé de faire quelque chose de plus sportif et ludique. On va appeler ça la course des entrepreneurs, ouvert aussi aux salariés des entreprises. Donc ça va être un gros projet qu'il va falloir se dépêcher à mettre en place parce que je pense qu'on aura besoin d'autorisation pour circuler un petit peu sur la voie publique. Voilà.
Merci, M. Collard. Monsieur Dodon, dans le...
Je sais que vous venez d'une autre région, donc déjà votre regard sur notre région, ça nous intéresse.
Donc Stéphane Dodon, je suis délégué général du MEDEF et de l'UMM Vienne. Donc MEDEF, normalement, tout le monde connaît. UMM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation patronale de branche des industries technologiques et de la métallurgie. Donc sur la Vienne, principalement, sont les industries du Châtel-Rodet qui sont dans la métallurgie, aéronautique, automobile et tout ce qui tourne autour. Je suis dans la Vienne donc depuis 18 mois et auparavant, j'étais sur Bordeaux. Donc où j'avais une entreprise, on construisait des stations d'épuration un peu partout. Et donc c'était déjà les Bordelais qui venaient déjà dans la Vienne avant la fusion des régions. Et donc pour faire le lien par rapport à ce qui a été dit avant et ce qui vient d'être dit, donc le MEDEF et les IMM, donc nous sommes départementaux, nous sommes complètement complémentaires avec les clubs d'entreprise. Et sont des missions qui sont assez différentes et complémentaires justement pour tisser le lien et accompagner le développement des entreprises. Et donc depuis quelques temps, ce qu'on essaye de faire sur le territoire de la Vienne et qu'on va développer de plus en plus, c'est de travailler en groupe et ensemble pour accompagner le développement des territoires, le développement économique avec les institutions, les politiques, les organisations consulaires. Sur plusieurs axes. Je terminerai par l'axe école-entreprise. Et le premier, c'est l'implantation. Comment accompagner et favoriser l'implantation des industries, là c'est plus côté métallurgie, mais aussi entreprise classique, sur un territoire. On travaille là sur deux cas concrets. C'est un peu un parcours du combattant quand une entreprise n'est pas physiquement ici aujourd'hui, comment ça se passe pour trouver un territoire, pour avoir les autorisations, pour avoir les financements, pour trouver les collaborateurs. Quand ils n'existent pas, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les demandeurs d'emploi, avoir les compétences et être prêt quand l'usine ouvre pour pouvoir être directement opérationnel. Et tout ça dans un secteur, sans faire un parallèle avec l'actualité, mais quand même mouvant. Et où ça pose des questions quand ce sont des investisseurs, en plus aujourd'hui sur un sujet particulier, c'est un investisseur britannique qui était déjà bien avancé pour implanter son usine dans la Vienne. Ben, il faut dédramatiser, montrer que le territoire est attractif, stable, pérenne et que s'il s'implante, il pourra se développer dans les 10, 15, 20, 30, 40 ans à venir, mais au moins les 5 premières années, s'il veut rentabiliser son investissement. Et tout ça, ça ne peut se faire que si tous les acteurs travaillent ensemble et parlent d'une même voix et qu'il n'y ait pas de combat de territoire non plus vis-à-vis de l'investisseur. Parce que même si une usine s'implante sur un territoire, son sous-traitant ou celui qui va construire l'usine sera sur le territoire d'à côté. Et même les salariés peuvent être sur les 30 km autour. Ça rayonne et ça crée de la richesse. Un autre sujet, et ça fera le lien avec l'intervenante qui va suivre, ce qui, ce que je trouve qui peut être intéressant à développer, c'est l'esprit vendéen implanté en Vienne. Comment travailler en groupe, chasser en meute, en gros, comment faire en sorte que la richesse qui est créée localement soit réinvestie localement. Quand une collectivité lance un appel d'offres, OK, il y a le code des marchés publics, mais sur d'autres départements, on arrive à faire en sorte que la commande se fasse en local, avec des acteurs locaux. Pourquoi est-ce que, je dis des noms au hasard, mais sur Poitiers, il y a des appels d'offres qui ne tombent pas forcément ici. Comment créer donc un esprit de groupe et que l'argent circule en local, se développe en local et crée de la richesse en local. Et donc on est en train de réfléchir, c'est au tout début, mais en travaillant avec les chambres de commerce et quelques clubs, et on va essayer d'ouvrir à d'autres clubs, comment travailler en groupe tous ensemble et être réellement complémentaires sans se voir concurrents. Parce que dans tous les cas, si on regarde concrètement ce qui est présenté, on n'a aucune concurrence entre nous. Et au contraire, on a tout à faire ensemble. Parce que l'entreprise s'en moque de savoir qui quoi, est-ce qui l'intéresse et comment elle peut se développer, comment elle peut embaucher, comment elle peut créer de la richesse. Et nous tous, par ricochet, ben, on se portera mieux. Et une des actions qu'on va lancer en fin d'année, c'est l'Université des entreprises en Vienne. En s'inspirant de ce qui a été fait sur d'autres territoires qui va vous être présenté tout à l'heure, avec donc ce sera on est MEDEF, donc ce sera Pierre Gattaz qui va le lancer, mais ce sera Jean-Pierre Raffarin qui fera la clôture sur un thème entreprise et territoire, l'attractivité et la compétitivité de nos territoires. Et au milieu, il va y avoir différents ateliers. Donc, on va voir comment on va pouvoir faire ces ateliers ensemble avec des clubs d'entreprise, avec le CJD, avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, et trouver un intérêt en commun. Et pour terminer, donc, nos relations université-entreprise. Déjà, nos locaux, on les partage avec l'Université de Poitiers. Donc le rez-de-chaussée, c'est le juriscope de l'université. Nous avons un amphi en commun. Premier étage, c'est MEDEF et UMM. Et au second étage, on loue à une cellule de reclassement d'Itron. Sur la Vienne, on a un tissu industriel qui se développe, mais on en a un aussi qui souffre un peu. Et on trouvait logique que le reclassement des collaborateurs de ces industries qui sont nos adhérents, on puisse les accompagner pour que ces salariés puissent être reclassés dans d'autres industries du territoire. Et les mini-entreprises, sans vouloir revenir dessus, je trouverais fortement dommage que ça s'arrête. On verra peut-être que sous un autre biais ou un autre nom, on pourra les développer. Mais parce qu'on travaille beaucoup pour trouver des entreprises à mettre en face des jeunes qui se développent. Et autant les jeunes que les entreprises trouvent... Enfin, c'est un outil très positif, très pédagogique. Et dans tous les cas, les collaborateurs de nos entreprises, dans demain, ben, faut les préparer maintenant. Et plus tôt, il y aura des liens et au plus près, on expliquera l'esprit d'entreprendre. Avant les événements actuels, si on regarde les sondages, de plus en plus, il y avait des jeunes qui disaient « je veux être entrepreneur, je veux créer ma propre entreprise ». Faudrait pas que ça cale. Et au contraire, faudrait vraiment favoriser tout ça.
Merci de votre témoignage. Alors, est-ce qu'il y a des questions aux trois intervenants, des remarques, qui veut se lancer ? Florent, allez.
Bonjour, toujours Florent Blain, toujours animateur culturel. J'aurais une question pour Atlant Sèvres Entreprises, savoir si, comme l'a précisé M. Collat pour le Neuvillois, est-ce que votre groupement d'entreprises, votre association, a des axes prioritaires, a des problématiques qu'elle souhaite se voir développer plus particulièrement, comme M. Collat l'a précisé. Et puis, à l'attention de l'intervention de M. Dedon sur sa réflexion sur le local et la nécessité de faire circuler les investissements locaux, je précise qu'il y a un groupe à Poitiers qui est en train de créer une monnaie locale, et d'ailleurs qui est bien avancé sur cette question-là. Et je pense que vous pourriez les rencontrer, qui manquent cruellement d'interlocuteurs comme vous.
Alors, pour être lancé d'entreprise, on n'a pas... On a des problématiques. Certains adhérents nous disent
Ça va à des sujets tout bêtes. Hein. La boîte aux lettres va disparaître, la boîte aux lettres de la Poste va disparaître dans une zone. Est-ce que vous pouvez nous aider à conserver? Il ne va plus y avoir un seul arrêt TGV à la gare. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Voilà, on est plus autour des problématiques comme ça. Alors, il y a des problématiques de fond, mais il y a beaucoup de sujets ponctuels qui vont sortir et qui vont, voilà, dont on va discuter. Et l'avantage du club, c'est d'avoir les élus, comme je disais tout à l'heure, à nos côtés. Et on peut faire très vite avancer les choses parce qu'on a les élus au sein du bureau et qui sont présents. Donc ça nous aide à avancer. Et Stéphanie, qui a les deux casquettes, comme vous le présentez tout à l'heure, nous aide à faire ce lien-là et à résoudre certaines de nos problématiques. Je rajoute une chose que tout à l'heure, je n'ai pas dit. On va innover cette année avec une classe de BTS qui, une rencontre avec une prof, nous dit... Nos élèves, ils ont du mal à faire les fiches d'identité de vos entreprises, à trouver un stage, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ça marche comment, ils sont vachement intrigués par le monde de l'entreprise, etc. etc. On les rencontre la semaine prochaine, hein, Stéphanie, la prof, pour essayer de créer un projet avec ces BTS. Alors, c'est des actions commerciales, c'est des gens qui sont censés, en plus, aller au-devant des entreprises, aller sur du commerce et autres. Et on va essayer, alors, une idée qui traîne autour de l'Assemblée Générale, peut-être les faire participer... commencer à leur faire poser des questions, à comprendre qui on est. Donc on va tenter ça en plus de notre événement ludique avec les étudiants, on va tenter ça avec cette classe-là, toujours pour démystifier un petit peu ce monde de l'entreprise et les aider à dire, voilà, on n'est pas des monstres non plus, vous pouvez venir nous voir, on accueille des stagiaires comme tout le monde, pas parce qu'on est une grosse zone, parce qu'on est un club, on est capable de faire tourner des choses et vous aider sur certaines choses. Et on l'a déjà fait jusqu'à maintenant et on continuera.
Monsieur Dodon, sur mon... allez-y, je voulais ajouter quelque chose.
Je voudrais rajouter quelque chose par rapport au business qui peut se faire aussi localement. On est sur une zone d'une certaine attractivité et des projets, il y en a de façon régulière. On voudrait encore plus, mais... Et du coup, dès lors qu'il y a un projet qui sort, un permis qui va être déposé, en fait, ayant moi aussi cette double casquette, on a la possibilité aussi d'informer les membres du club un petit peu en priorité, de dire bah, attention, voilà, il y a quelque chose qui va sortir, de pouvoir vous donner aussi les contacts pour qu'ils puissent se positionner. C'est aussi ça, la force. Un peu. Et aussi pour une entreprise qui va venir s'installer chez nous, de dire, ben, voilà, vous allez vous installer, mais autour de chez vous, il y a un certain nombre de compétences. C'est peut-être intéressant de pouvoir les consulter au préalable.
Sur la monnaie locale, Monsieur Dodon, mais Monsieur Collat, vous pouvez répondre aussi. Est-ce que vous êtes informé? Est-ce qu'on vous a sollicité? Parce que Vivre Entreprendre, c'est dans la Vienne.
Je ne suis pas un expert du sujet, sincèrement. Alors donc, il va peut-être falloir que je vienne pour me former sur le sujet. Je ne suis pas trop au courant du sujet, donc je ne vais pas trop pouvoir vraiment en parler. Mais du coup, ça mérite peut-être qu'on ait une rencontre pour pouvoir expliquer tout ça, parce que là, vraiment, je ne suis pas un expert de la thématique.
Monsieur Collat, vous en avez entendu parler de cette
manière ? J'avais vu un article sur le CEDA Poitiers.
Sans plus, voilà. Vous n'avez pas été sollicité pour plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Vous présentez en même temps ?
Oui, Jean-François Hérault, chargé de développement au CAP et un réseau de structures d'insertion sur Grand Poitiers, mais on est aussi animateur des ateliers de la création sur le territoire. Je trouve intéressant le rapprochement entre les clubs d'entreprise et aussi les collectivités territoriales. Donc, par rapport à l'animation, voilà, l'expérience sur Atlantsev est intéressante de ce côté-là. Est-ce que vous, Monsieur Collat, sur... le territoire qui va être rapproché, c'est aussi une perspective que vous envisagez?
Oui. Le souci, c'est qu'on a actuellement 3 présidents de communautés de communes. Au final, ça ne sera peut-être pas l'un de ces 3. Donc on attend aussi de savoir quel va être ce nouveau président ou cette présidente. Et puis ensuite, quelles sont les compétences qui vont être prises par la nouvelle communauté de communes, sachant qu'il y a des compétences qui sont dans une communauté de communes et que d'autres n'ont pas. Donc c'est encore un peu le flou à ce niveau-là. Donc on va attendre que la rentrée arrive. Je pense que là, on en saura un petit peu plus. Là, on a un petit peu peut-être la tête dans les vacances. Et puis voilà, mais... On suit. Et puis nous, au niveau des associations, avec la Chambre de commerce, on va faire une réunion de travail entre les 3 associations pour nous, de toute façon, à la rentrée, proposer déjà des choses concrètement au niveau de la future communauté de communes.
Je vais rajouter une chose. Nous, on a rentré toutes les mairies
de notre territoire. On les a rentrés dans notre club, donc ils sont adhérents dans notre club. Aussi la communauté de communes adhérente et les chambres consulaires.
Et vous êtes concerné par la réforme territoriale ?
Pas sur ce secteur-là. Voilà, c'est un peu moins sensible. Un peu moins sensible.
D'accord.
Adhérents actifs. Moi, le périmètre aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir 150 et en voir que 50, ça m'intéresse pas. On a fait une assemblée générale l'année dernière, on a presque eu 100% des présents. Moi, ça me va. Et le but du jeu, c'est pas faire une adhésion à 50 €. Très honnêtement, on peut aller en chercher, on peut faire avoir toutes les entreprises de la zone adhérente, mais si c'est pas aller voir, ça m'intéresse pas, quoi.
Oui, bonjour, Olivier de Frémont, donc chargé de mission relations entreprises à l'IUT de Poitiers. Et donc, actuellement, je regarde ce que les IUT fêtent leurs 50 ans cette année. Donc, c'est aussi un moment pour regarder ce qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se fait dans les territoires, effectivement, en se rapprochant des associations. Donc, je suis prêt à vous rencontrer là-dessus. Quand on regarde, j'ai regardé sur le bassin Châtel-Rodet, par exemple. Cette année, on avait 70 étudiants en stage, 15 en apprentissage. Ça touche uniquement 50 entreprises. Et quand on regarde les domaines, juste un, je vais en technique de commercialisation, puisque c'est sur Châtel-Rodet, il y en avait 40. Et sur d'autres secteurs, il n'y en avait aucun. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, moi, avec les territoires aujourd'hui, pour identifier les compétences dont vous avez besoin. Et qu'on puisse travailler auprès des étudiants pour qu'ils connaissent les entreprises et les besoins des compétences sur chacun des territoires, afin qu'on les sensibilise et qu'ils aillent efficacement vers là où sont les nécessités. On a travaillé actuellement sur le développement de l'apprentissage en technique de commercialisation. J'ai réussi à leur décrocher 14 propositions de contrats. Et en fait, quasiment tous les étudiants sont partis vers du commerce basique et tout ce qui était dans les entreprises techniques qui ont besoin de développement commercial, ben, ils n'y sont pas allés. Et ça, c'est la chaîne de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, effectivement. C'est vraiment important de leur faire connaître les enjeux de l'économie de manière à ce qu'ils fassent des choix réalistes. Alors, on le fait avec l'UEMM, l'université, avec des bourses trajectoires où il y a des parrainages. Hein, et il y a des gens, suite à ces parrainages, qui font des choses remarquables. Et voilà, donc on a besoin de ces rapprochements, mais aussi de les professionnaliser de manière à sortir de l'anecdotique, hein, du rapprochement uniquement de l'entreprise qui est près de chez soi et de faire des choix plus par défaut que sur des choix un peu intelligents, quoi. Et on a besoin d'y travailler pour cartographier les choses.
Là, on touche deux sujets, surtout quand on parle de proximité, parce que on voit que par moment, les jeunes et les étudiants sont peu mobiles à plus de 15-20 km. Moi, j'ai un exemple précis sur Châtellerault. Il était zone nord, il fallait aller zone nord Châtellerault, il fallait aller à sud Châtellerault et c'était trop loin. Après, on touche à plein de problématiques. Mais peut-être le concept qui a été développé sur les bourses, alors sans aller jusqu'aux bourses et un par un, et surtout une bourse à chaque fois, parce que juste en résumé, l'UMM, on a un partenariat avec l'université, et tous les ans, on accompagne 42, je crois, cette année, jeunes, où on leur donne une bourse et on leur met un par un sur 1, 2, 3 ans, parce que l'industrie de la métallurgie, c'est pas toujours glamour auprès des jeunes, surtout quand sur un territoire, on a 1, 2, 3 plans sociaux. Après, il faut communiquer pour montrer que l'industrie, il y a de l'avenir et c'est un monde en pleine mutation. Après, peut-être que le monde économique et industriel ne communique pas assez ou en n'utilisant pas les bons canaux. Enfin, là, on est en pleine réflexion parce qu'on communique, mais peut-être pas de la bonne manière pour toucher les jeunes et leur donner envie, même en technique de commercialisation, sur le territoire de Châtel-Rodet. On a plein d'entreprises sur l'aéronautique qui travaillent dans le monde entier sur des programmes assez intéressants. Il y a besoin de ces compétences pour la France, mais pour l'international. Donc, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il faut qu'on voit comment nous, on peut communiquer différemment auprès des jeunes pour leur dire là, tu as de l'avenir et sur Châtel-Rodet, mais pour rayonner sur le monde, quoi.
La réponse, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Notre nouvelle action avec les BTS commerciaux, ça va être ça, c'est de nous faire connaître et faire du B2B plus facilement et d'arriver à fluidifier un petit peu les relations qu'on peut avoir. Aujourd'hui, le Club Atlantsev était plus sur une problématique de business entre nous, de se connaître, que sur de l'emploi ou sur des choses. Je pense qu'on prend un certain virage au travers ça. On se refuse aujourd'hui de faire tourner des CV pour X raisons à tous les adhérents, de noyer des boîtes mail, etc. Il faut qu'on y trouve aussi un format et qu'on trouve notre équilibre au travers de ça. Parce qu'il y a une demande d'un côté, parce qu'on a une demande entrante. On ne sait pas forcément comment la traiter. Les demandes d'aujourd'hui, pour répondre à votre question, pour faire un état des lieux, compliqué un état des lieux, c'est vous en avez besoin maintenant pour une rentrée septembre, si je schématise, hein, pour rentrée septembre, pour un projet de l'année prochaine. On a des entreprises qui n'ont pas cette vision-là. Bien sûr, on en a qui ont cette vision-là parce que voilà, ça peut être une plus grosse structure, etc. Le petit artisan qui est en perte de marché, qui dit tiens, j'ai peut-être recruté un commercial, il n'en est pas là. Il n'en est pas là. Effectivement, c'est notre problème. Mais oui, Atlantsev prend cet axe-là. Et oui, le 10e anniversaire va peut-être aussi tourner un petit peu cette page-là autour de l'emploi et de sortir un peu du business. Ouais.
Oui, j'avais une question à poser sur les engagements qui existent ou qui pourraient exister sur la semaine de l'industrie. Parce que vous parliez de l'industrie sur Châtellerault, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Donc il y a quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens plus trop, si je me souviens, c'était en mars. Donc il y avait une réunion avec les proviseurs du lycée Marcel Dassault de Rochefort, donc, qui a un lien très fort avec l'aéronautique, comme son nom l'indique, évidemment. Et puis, il y avait le proviseur du lycée Branly-le-Verger, donc, qui est chez vous, et qui ont présenté une organisation au niveau de l'Académie de Poitiers sur ce qu'ils appelaient le campus des métiers aéronautiques. Alors, il se trouve que sur Rochefort, la semaine de l'industrie est quelque chose qui est extrêmement important. Donc on l'avait mis en place avec l'AFDET, mais pas uniquement, hein. Donc c'était le point de départ, puisque à l'époque le proviseur du lycée Marcel Dassault de Rochefort était vice-président de l'AFDET quand j'étais président, donc on a changé nos places maintenant. Donc un engagement important avec la profession, évidemment, qui est sur place, qui a du sens, hein. Avec tous les partenaires d'entreprise qu'on peut imaginer. Et là, ce qu'on se disait, nous, au niveau de l'AFDET, c'est qu'il y avait à voir aussi du côté de Bordeaux, nécessairement, par rapport à l'aéronautique. Donc c'est une question qui nous préoccupe beaucoup, de voir comment donner un message audible, valorisant, sur toute une branche de l'industrie, qui peut associer sur la Nouvelle-Aquitaine, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, je dirais de Bordeaux à Rochefort, à Châtellerault. Donc ma question, elle serait un petit peu celle-là, c'est est-ce qu'on peut imaginer sur le court, moyen ou un peu plus long terme, donc une démarche partagée pour porter un message audible auprès des jeunes sur les opportunités qui s'ouvrent nécessairement sur toute cette branche qui est porteuse de toute une série de qualifications et de métiers qui sont à découvrir. Donc voilà ma question, c'est est-ce que les choses peuvent s'accélérer sur un registre comme celui-là.
Rapidement, en deux mots, sur la nouvelle Aquitaine, parce que c'est son nom maintenant. Donc, au sein de la branche et des industries technologiques, les semaines de l'industrie, ça va être coordonné, on va faire des actions communes pour la promotion des métiers. Depuis pas longtemps, dans les cinémas, la partie pub des cinémas, on a fait un petit film, alors 30 secondes parce que c'est pas donné, mais de 30 secondes pour montrer les métiers, les filières, ce qui existe dans l'industrie, pour donner envie et montrer aux jeunes quand ils vont au cinéma, ils regardent les pubs. Bon, on s'est dit c'est le bon endroit pour les toucher directement. Donc on a fait un film de 30 secondes pour montrer les métiers et le côté avenir technologique et numérique qui se développe dans ces industries aéronautiques. On utilise les réseaux sociaux, on a lancé des jeux concours avec des jeunes où s'ils arrivent à amener un jeune, un de leurs collègues, vers les métiers de l'industrie, ils gagnent une GoPro. à chaque fois qu'un jeune s'inscrit dans une formation qui est liée au monde des industries aéronautiques, il gagne une GoPro. Enfin, on essaye de donner envie aux jeunes d'aller dans ces métiers-là et aussi de favoriser l'apprentissage dans ces métiers-là, parce que c'est le meilleur moyen pour être prêt après quand on arrive dans une industrie. Enfin, on essaye de se réinventer, de trouver des actions pour attirer les jeunes et leur montrer que l'industrie, ce n'est pas forcément Zola, et qu'il y a beaucoup d'investissements et d'avenir dans ces métiers.
Merci. Je vous propose qu'on demande à Mme Maton et à M. Dissé de rejoindre l'Estrad et voir qu'est-ce que c'est que l'esprit vendéen, finalement, puisque ça a été évoqué. Est-ce qu'il règne ? Est-ce qu'il souffle un peu sur le Poitou ? Parce qu'on a parlé de la Vienne, mais il y a aussi le Poitou, voilà. Donc peut-être Monsieur Dissé tout d'abord sur qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'employeurs, quel intérêt ça peut présenter, y compris pour le monde entrepreneurial, et puis ensuite la Vendée et son université des entrepreneurs.
Bien, bonjour à tous, donc Alexandre Dissé, moi je suis chargé de communication au centre de ressources des groupements employeurs et également de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc notre structure a fêté en 2015 ses 15 années d'existence. On a trois missions principales. La première, c'est d'accompagner l'émergence des projets de mutualisation d'emploi. La seconde, c'est d'accompagner, une fois qu'ils sont créés, les différentes structures qui mutualisent de l'emploi en matière de formation et de conseil. Et la troisième, c'est une fonction lobbyiste, en fait, visant à faire évoluer les conditions réglementaires de façon positive pour permettre, pour faciliter le fonctionnement des groupements d'employeurs. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un groupement d'employeurs, on va dire que la définition générale, ce sont des structures qui ont pour vocation de recruter des salariés pour les mettre à disposition auprès d'entreprises adhérentes. Mais pour bien comprendre le fonctionnement et l'intérêt d'un point de vue territorial, je pense que c'est important de revenir un petit peu en arrière et de voir ce qui a amené à la création des GE. Donc on va se projeter, on se projette au milieu des années 80, en Poitou-Charentes. La région fait face à une problématique de désertification rurale. Non pas parce qu'il manque du travail, parce qu'il y a une pénurie, mais au contraire parce qu'il y a un problème d'organisation. C'est-à-dire que la plupart des emplois qui sont proposés sont des emplois à temps partiel qui ne sont pas pourvus. À cette même époque, les agriculteurs utilisent des structures qui fonctionnaient très bien, qui fonctionnent toujours très bien, qui sont les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole. Et donc, ils avaient déjà la culture du partage du matériel agricole dans le sang. Alors, l'idée, c'était pourquoi pas aller plus loin et partager autre chose que des machines. Et c'est comme ça qu'avec la loi du 25 juillet 1985, bon, là, c'est la version courte, hein, ça a été un petit peu plus long que ça, mais c'est ainsi que sont créés les groupements d'employeurs pour justement mutualiser les emplois et à partir de besoins partiels, c'est-à-dire une dizaine d'heures chez un exploitant, une dizaine d'heures chez un autre et 15 chez l'autre, de mailler les emplois pour arriver à créer des temps complets pour les salariés. Ça permet à la fois de répondre à un besoin de flexibilité de la part des exploitants ou aujourd'hui des entreprises, et également d'assurer pour les salariés une sécurité plus importante de l'emploi et de leur permettre d'accéder à un niveau de vie décent. Donc ça, c'était les années 80. Ensuite, dans les années 90, il y a eu un double développement, à la fois sectoriel, puisque ce qui était dans l'agriculture, les jeux donc, qui étaient initialement dans l'agriculture, sont développés d'abord dans l'artisanat sur les Deux-Sèvres, puis dans différents autres secteurs d'activité, l'industrie, le sport, l'animation, les services, pour au final aujourd'hui toucher la quasi-totalité des secteurs d'activité qu'on a en France. Et ensuite, on a également un développement, cette fois national, puisque le dispositif créé en Poitou-Charentes, aujourd'hui est présent sur l'intégralité du territoire français et même au niveau européen, puisqu'on compte certains groupements en Belgique, en Autriche ou encore en Allemagne. En 30 ans, on est arrivé aujourd'hui à environ 6000 groupements d'employeurs, ce qui représente à peu près 40 000 salariés et donc un grand nombre de secteurs d'activité. Au niveau du fonctionnement, les groupements sont généralement des associations de loi 1901, peuvent également se former sous la forme de sociétés coopératives, mais 99% d'entre elles sont sous forme associative. elle recrute elle-même le personnel. Donc les salariés sont salariés du groupement d'employeurs, ce qui veut dire un seul contrat de travail, une seule fiche de paye, puis sont mis à disposition auprès d'entreprises adhérentes du groupement. Donc on est sur la création d'une véritable relation tripartite entre le groupement, le salarié et les entreprises. Pour le groupement, ça veut dire que c'est lui l'unique employeur qui va gérer, animer les plannings et mailler les emplois en fonction des besoins des entreprises. Et il va également assurer le suivi des salariés et leur assurer les niveaux de formation. Pour le salarié, l'objectif, enfin, se dire être salarié d'un GE, c'est être le plus souvent en CDI, travailler au sein des entreprises adhérentes et développer une employabilité basée sur la pluricompétence, plutôt la polycompétence. Et enfin, pour les entreprises adhérentes, qui sont toujours responsables des conditions d'exécution du travail, c'est adhérer durablement à une structure, le groupement, et participer activement à son fonctionnement et à ses décisions. Au final, le groupement devient une structure qui est créée par ses entreprises, par ses adhérents, mais à son service, au service de leurs adhérents. Les cas de recours sont multiples. Les cas pour recourir à un GE sont multiples. Donc, comme je vous le disais initialement, des besoins à temps partiel, mais c'est également des besoins saisonniers. Si on prend l'exemple, je prends un exemple sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, de mai à septembre, une activité touristique forte. Le reste de l'année, on a des activités qui sont un peu moins connues, mais avec lesquelles il est possible, il a été possible de mailler justement cet aspect de saisonnalité ou d'hôtellerie, de tourisme, à savoir l'ostréiculture, octobre, novembre, décembre, le bâtiment, la gestion des espaces verts, etc. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années, a été créé donc un groupement d'employeurs, donc le GLEMO, groupement d'employeurs Marraine d'Oléron, qui aujourd'hui est devenu le premier employeur de l'île d'Oléron, parce qu'il avait cette capacité à mailler des emplois saisonniers et donc à pallier, à déprécariser la situation saisonnière et surtout à permettre de conserver des profils saisonniers en emploi tout au long de l'année. Les niveaux de qualification sont également divers, parce qu'aujourd'hui, on a des employés de groupement d'employeurs sur les statuts de qualification de niveau 5 ou des agents de maîtrise, des cadres, et on est sur des postes qui sont très variés, puisqu'on peut être des postes de production, des postes de qualité, ou encore de gestion de la qualité, QSE, ou encore de communicants, etc. Au final, je pense que ce qui est intéressant sur le dispositif GE, c'est vraiment la capacité qu'il a à répondre à un besoin territorial ou un besoin sectoriel de différentes entreprises qui veulent recruter des personnes, mais qui n'ont pas la capacité à avoir la main-d'œuvre en direct, parce qu'elles n'ont pas les postes ne sont pas suffisamment attractifs, que ce soit au niveau des temps de travail ou même au niveau de la capacité de gestion du personnel. Confier à un groupement d'employeurs, ça permet de structurer les emplois et de conserver une compétitivité dans l'attractivité territoriale. Voilà pour moi.
Merci, Alexandre. Donc, Madame Maton, l'Université des entrepreneurs vendéens.
Alors, bonjour. Moi, je suis la vendéenne de l'étape et gentiment, Monsieur Deniol m'a proposé de venir vous présenter l'université. Oui. L'idée de l'université est née il y a 5 ans en Vendée, à un moment où les temps étaient un peu durs. Et l'idée qui prévalait à la création de cet événement, qui a été fait au démarrage de manière assez empirique et artisanale, c'était « les temps sont durs, réunissons-nous, restons ensemble et essayons d'agir ensemble sur les leviers qui vont nous permettre de nous en sortir ». J'ai beaucoup entendu depuis tout à l'heure un certain nombre de mots-clés, décloisonnement, je pense que je vais l'illustrer, ensemble et les jeunes, parce qu'on a aussi pas mal travaillé avec les jeunes. Voilà. Alors, j'ai pas préparé une présentation très formelle. Je vous propose peut-être 3 témoignages de personnes qui ont participé ou qui ont animé l'UEV. Voilà. Alors, le premier, c'est le témoignage d'un intervenant, parce que, effectivement, l'objectif de l'université, c'est vraiment d'interpeller, d'amener à réfléchir, de réfléchir sur demain. Et on essaye d'être un peu iconoclaste dans notre façon de faire. Voilà, je vous propose le premier.
Bonjour, cher ami, je m'appelle Denis Jacquet. Je suis venu de Paris, mais je suis bien réveillé. Ça ira ?
C'est bien. Alors, quelle est votre fonction, alors ?
Alors, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Les deux principales sont celles d'être entrepreneur. Donc, j'ai une boîte qui s'appelle EduFactory, qui fait depuis 15 ans du e-learning, la formation via Internet. Puis, de l'autre côté, Parrainer la croissance, qui est une association d'entrepreneurs que j'ai créée en rentrant en France et qui a à peu près 4000 membres aujourd'hui, essentiellement parisiens, mais qui se développe progressivement sur toute la France. Puis, plus récemment, l'Observatoire de l'ubérisation qu'on anime pour essayer de faire souffler le vent du digital sur la terre française.
Et alors, quelle est la raison de votre présence ici aux universités ?
Écoutez, je réponds toujours oui quand on me demande de venir pour parler à qui que ce soit, entrepreneur, jeune, vieux, agriculteur, salarié, ouvrier. Du moment qu'on parle d'avenir, du moment qu'on parle d'entrepreneuriat, du moment qu'on parle de choses positives et qu'on a envie de construire ensemble. Donc, dès qu'on me dit que c'est animé par cet esprit-là, je viens.
Et quel a été le thème alors de votre débat ?
Alors, le thème du débat que nous avons aujourd'hui est plutôt sur comment j'aide l'avenir, hein, puisque c'est la thématique centrale aujourd'hui, et notamment notre thématique à nous, pour les trois intervenants, Gilles Babinet, Didier Long et moi-même, ça va être vraiment de dire comment j'aide l'avenir, ce qui veut dire comment je plante au présent ces petites graines qui vont, j'espère, devenir des gros arbres demain. Donc comment est-ce qu'on prépare ça ? Et finalement, aider l'avenir, c'est surtout construire le présent correctement, ce qui n'est pas toujours l'orientation qu'on peut sentir dans ce pays aujourd'hui. Donc on va essayer d'être de plus en plus nombreux à mettre ces petites graines d'avenir dont on a véritablement besoin pour rebondir.
Et pour finir, pensez-vous qu'il faut avoir de la chance aujourd'hui pour entreprendre ? Alors là, on va répondre en chantant pour finir.
Avoir de la chance, je vais le faire en slam. Alors non. Comme c'est une question importante, je vais quand même essayer de me concentrer sur la réponse. En fait, la chance existe et n'existe pas. Où on la provoque. Et je pense que la chance est très liée à l'observation. Les gens qui ont de la chance, ce sont qui ont vu quelque chose que vous et moi, on n'a pas vu. Donc on appelle ça de la chance, parce qu'il y a très peu de gens qui observent. Donc du coup, on pense qu'ils ont plus de chance que d'autres. La vraie chance, c'est de gagner au loto. Voilà. Mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment de chance. Il y a une bonne observation au bon moment. Et je pense que je ne peux pas faire mieux.
Pour finir, une petite chanson ?
Je ne sais pas. S'il y a un truc très bien sur l'avenir, c'est... Fly me to the moon and let me play among the stars. Voilà.
Bon, je ne vais pas vous faire. Je ne vais pas vous passer les trois films parce que sinon on en aura pour trop longtemps. Mais en fait, au démarrage, ce qui était très important, c'est que nous avons eu.
Vous m'entendez mieux là ? Oui. On a fait trois éditions de cette université. Au démarrage, nous étions 9 partenaires à organiser cette université, un certain nombre de clubs d'entreprise, APM, le Centre des jeunes dirigeants, la Jeune Chambre économique. C'est les 19 de la troisième édition. On était 400 en 2012, 9 partenaires. On était 600 en 2014 à 13 partenaires. Et on était 850 en 2016, en février, à 18 partenaires. Voilà. Donc je pense que ça illustre bien le fait d'être ensemble. L'idée, c'est vraiment de se placer dans la prospective, dans l'avenir. C'est vrai qu'on est à un moment charnière et que nous sommes absolument convaincus que l'organisation centralisée ne sera plus et que nous avons chacun, citoyen, entrepreneur, à prendre notre part. Donc l'idée de l'université, c'était comment j'aide, moi, ma chance et comment j'aide l'avenir avec sens au service du bien commun. Ça, c'était vraiment très, très important. On a réuni, ça se passe pendant 2 jours, 2 conférences plénières, un grand entretien avec des jeunes. Alors ça, je vais continuer. Un grand entretien, une trentaine d'ateliers, un dîner convivial, parce que la convivialité est absolument essentielle. Et puis on a fait ça cette année au sein d'une école, de l'école LICAM et le GC de Vendée. D'ailleurs, vous parliez entrepreneuriat tout à l'heure. L'équipe de l'ICAM et de l'EGC a gagné les entrepreneuriales, c'est un concours dont vous avez peut-être entendu parler, a gagné les entrepreneuriales au niveau national il y a un mois. Là. Voilà, ils ont inventé un plat qu'on sort du four sans se brûler. Je ferme la parenthèse. Donc on a fait ça dans une école et on a voulu travailler avec les étudiants. Il y avait 850 chefs d'entreprise et un peu plus de 150 étudiants. Et on les a associés à la conception de l'événement. Ils étaient évidemment dans toute la partie organisation, contact, logistique, etc. Mais on a voulu faire des choses ensemble. On les a associés à agir ensemble, enfin, je veux dire, les entrepreneurs et les étudiants. On n'a pas fait des tables rondes avec le point de vue des uns opposé au point de vue des autres. Ce qui nous a semblé plus intéressant, c'était de travailler ensemble. Exemple, parce que le ludique est important aujourd'hui, on a proposé de jouer au Lego. On avait un stand Lego et on a proposé à des équipes mixtes, chefs d'entreprise et étudiants, d'imaginer l'entreprise de demain et de la construire en Lego. Alors, ça a été une organisation. Ils avaient chacun 20 minutes et ils ont exposé leurs idées devant tout le monde. Voilà. Et ça, pendant les deux jours, à raison de rotation toutes les 20 minutes, on avait quelques 30 à 40 productions de l'entreprise de demain. On a organisé aussi avec les jeunes... les Utopics. Alors les Utopics, c'est un challenge inter-établissement parce qu'on a 5 établissements partenaires de l'UEV. Les deux thématiques de cette année, c'était donc J'aide la chance et J'aide l'avenir. Et on leur a proposé d'illustrer au moyen d'un TED. Ils disposaient chacun de 8 minutes selon tout mode d'expression, le théâtre, le chant, la sculpture, le dessin, etc. Comment, ce que voulait dire pour eux, j'aide la chance et j'aide l'avenir. Et ça, rien que leur permettre de s'exprimer, leur permettre de confronter et de faire des choses de manière ludique, conviviale et sympathique, ça a quand même énormément contribué à décloisonner. Voilà. Alors, c'est vrai que le principe de l'université, les objectifs, c'est d'interpeller, d'étonner, de réunir les réseaux, vous l'aurez compris, de croiser les regards parce que viennent des philosophes, des scientifiques, un neurologue, un neuroscientifique. On a eu, Idriss Aberkane est venu, Marc Alevi est venu, une philosophe, Stéphane Héloïse Gras, Gilles Babinet, qui est quand même le champion digital français à la Commission européenne. Et je dirais que ce qui est dans l'ADN de l'université, c'est l'éclectisme des témoignages, des prismes de vision. Et de ce brassage-là, les chefs d'entreprise, ça leur permet de prendre énormément de recul. On ne vient pas à l'université pour chercher des outils pour mieux faire dans sa boîte. On vient à l'université pour prendre du recul, détecter les signaux faibles, les tendances émergentes et essayer de voir ce qu'on peut développer tant en interne qu'en piste de diversification. L'entreprise libérée, on en parle quand même beaucoup en ce moment. On a eu le témoignage de deux chefs d'entreprise, dont un qui tourne pas mal avec Isaac Goetz, qui se trouve être nantais, Alexandre Girard. Voilà. Si vous voulez, l'idée, c'est d'ouvrir, de décoiffer, d'ouvrir le champ des possibles, de croiser les regards, parce que de la diversité des intervenants, naît la richesse. On en est absolument convaincu. Et voilà. Ça, c'est l'idée de l'université. Alors, vous disiez que C'est vrai que l'université est née il y a 5 ans. À ce moment-là, on a fait ça avec, de manière assez artisanale avec nos petites mains. On a fait la 3e édition et aujourd'hui, on se pose de vraies questions sur la 4e. Pourquoi une 4e édition ? Quels sont nos objectifs ? On ne veut pas faire l'édition de trop. Il faut absolument qu'on change les modèles et qu'on sorte du top-down, sachant apprenant, mais qu'on privilégie d'autres formats ludiques, collaboratifs, sensoriels, etc. Ça demande une autre organisation et ça veut dire qu'il va sûrement falloir professionnaliser les choses et faire appel à d'autres compétences aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'université. Je pense que merci, je ne vais pas rentrer dans les thématiques.
Mais peut-être les questions vont pouvoir permettre. Je sais pas s'il y a.
Oui, voilà.
Allez-y. Hein, si.
Ah, non, mais c'était c'était un peu les chiffres clés. On avait aussi, c'était super parce que on était dans une école d'ingénieurs, donc on a une trentaine de jeunes qui se sont répartis dans toutes les salles, qui ont tweeté en live. On avait un live tweet. Enfin bon, on a eu énormément de reprises sur les réseaux sociaux. Ça crée aussi une belle dynamique. Oui, je pensais que j'en avais mis plus que ça. Bon, mais écoutez, voilà.
Des questions, des remarques?
Comment est-ce que les écoles d'ingénieurs, pour arriver à les accrocher à ces universités, comment ça s'est passé pour les faire venir et les faire devenir acteurs du sujet ?
Alors ça, c'est vraiment, c'est pas une gageure, mais presque. Parce que d'abord, on a fait ça dans leurs locaux, donc c'était déjà énorme. Mais on les a totalement associés un an et demi à la conception de l'université. Ils étaient là dans les groupes de projet, les comités de pilotage, etc. On a intégré ça dans leur planning, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cours pendant 2 jours pour les quelques 500 étudiants du site. Et puis surtout, on les a laissés être force de proposition. Les Legos, c'est eux qui nous l'ont proposé. Donc on a trouvé que c'était une super idée. Voilà, on a vraiment fait avec eux. Mais ça veut dire que ce sont des heures et des heures et des heures d'animation, d'échange et de pilotage avec eux en amont. Voilà. C'est une université comme ça, c'est un équivalent temps plein annuel. C'est un budget de 190 KE. Voilà. Et donc, pour l'instant, on l'a fait de manière assez artisanale parce qu'effectivement, en Vendée, on bosse bien tous ensemble, mais on arrive à la limite de l'événement.
D'ailleurs, le programme se trouve à l'entrée, hein, si vous le
voulez. Oui. Voilà, le programme est là. Et puis cette année, Ouest France, qui avait entendu parler de l'événement, nous a fait plusieurs fois des pleines pages. Ils ont été assez intéressés par le fait qu'on ne brassait pas que de l'économie et qu'on a invité beaucoup de profils différents. Exemple, on a, je ne sais pas si vous connaissez Hugo Reyne et la Symphonie du Marais. C'est un ensemble musical baroque qui se produit pas mal en France. Il se trouve que c'était pendant les Folles Journées. Hugo était aux Folles Journées. Alors, la plénière de clôture, on a fait venir le clavecin, etc. Tout ça sur la scène. Voilà, mais c'est l'esprit de l'université aussi, c'est cette convivialité, cette ouverture. On ne parle pas que business et économie.
D'autres questions, d'autres remarques ? Vous avez le droit.
Quand tu dis on arrive au bout du modèle, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi le bout du modèle ? Pourquoi vous vous dites, on arrive au bout de ce modèle-là?
Alors, au bout du modèle en termes d'organisation. Et puis, il faut absolument qu'on se renouvelle sur le fond pour proposer une offre vraiment innovante et décoiffante. Et on a beau être 19 partenaires, on sait bien que dans ce type de choses, ça repose sur un acteur, en l'occurrence le MEDEF. Hein. Voilà, l'idée a été lancée il y a 5 ans par le MEDEF et c'est porté totalement par le MEDEF. Donc, c'est pour l'instant, ben maintenant, c'est trop. Voilà.
—
Donc bonjour, toujours Florent Blain. J'ai une question à Alexandre Dissé. Quand vous dites que vous répondez aux besoins des territoires, j'aurais voulu savoir s'il y avait aussi peut-être une petite fonction prospective et est-ce que vous étiez force de proposition aussi parfois pour les territoires en termes de développement, par exemple.
C'est, je pense, une très très bonne question. Aujourd'hui, les groupements d'employeurs, ils ont une fonction de réponse aux besoins de leurs adhérents. Donc un adhérent A qui va avoir un besoin, par exemple, de gestion en matière de comptabilité d'une dizaine d'heures par semaine, un deuxième adhérent qui va avoir besoin d'une quinzaine d'heures, etc. Et le groupement va avoir pour métier de mailler pour arriver à répondre aux besoins et à créer un emploi à temps plein derrière. Il y a aussi l'autre côté, parce que c'est important, et on le voit, nous, au niveau de notre réseau, les groupements d'employeurs restent en veille et participent activement à tous les différents événements qui peuvent exister au niveau des forums emploi, par exemple, ou des salons de recrutement, et vont identifier des profils qui peuvent intéresser leurs adhérents pour pouvoir leur proposer, en fait, un profil clé qui leur permettra, pourquoi pas, de développer une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. Ça peut être... l'exemple que j'ai en tête, c'est un groupement d'employeurs qui a identifié une personne responsable qualité, hygiène, environnement, qui a proposé activement à l'ensemble de ses adhérents ce profil-là, parce qu'ils ont un système de communication interne qui est auprès de l'ensemble des adhérents qui est plutôt pas mal fait. Et donc, ils ont réussi à mettre cette personne en emploi partagé auprès de 4 structures pour des missions complémentaires. Donc, c'est un poste sur lequel les entreprises n'auraient pas été d'elles-mêmes et que le groupement leur a proposé de façon active. Donc, je pense que ça, c'est bénéfique puisque ça permet de créer, de pallier à des emplois qui n'étaient pas forcément identifiés à la base.
D'autres remarques? Sinon, Philippe, non? Tu veux intervenir? Je te tends la perche. Tu es obligé de la saisir.
Oui, bonjour à tous. Deux remarques. La première sur les groupements d'employeurs. Nous, dans le réseau consulaire, on a constaté un certain nombre de carences en matière d'emploi. On a fait appel au groupement d'employeurs pour dire, écoutez, faites-nous une étude, notamment sur la branche hôtellerie-restauration, en particulier sur l'hôtellerie, où visiblement il y avait un manque cruel d'emplois bien ciblés, etc. Et on est arrivé malheureusement à une conclusion de non-faisabilité, parce qu'il nous manquait un certain nombre de gros faiseurs, etc. Mais surtout l'intérêt qu'y ont vu les professionnels derrière au travers de l'étude, c'était de quêter auprès des entreprises leur organisation, pour tenter effectivement à dire, dans cet hôtel, c'est pas une femme de ménage qui manque, c'est un jardinier. Parce qu'à un moment donné, vous faites tellement... dans l'organisation que vous avez un certain nombre d'heures qui sont dévolues à tel et tel type d'activité, mais si vous vous organisez mieux, concrètement, on pourrait avoir tel et tel type de choses. Et cet apport a été très, très positif dans les entreprises suite à l'étude qui a été réalisée par le CRG. Et petit clin d'œil sur ce que vous avez monté en Vendée. Je rêve, et ça, je fais un petit clin d'œil à Stéphane, je rêve qu'on puisse faire la même chose ici. Mais effectivement, moi aussi, ça m'intéresse l'épuisement. Parce qu'effectivement, si vous avez de l'avance, on peut profiter de votre avance pour éviter de s'épuiser.
Ah oui, ah oui. Alors, juste une chose, c'est vrai que ce qui est vraiment très intéressant, c'est de le faire tous ensemble. Mais ça veut dire que, aucun acteur... tu disais que Pierre Gattaz venait... Là, c'est Université MEDEF. Au national, ils nous ont proposé que Pierre Gattaz vienne. C'est l'université des entrepreneurs vendéens. Je dirais que c'est très important. Ça a été la volonté du MEDEF dès le démarrage, mais ça veut dire aussi que il faut respecter une belle équité entre les partenaires. Et la confiance vient au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a développé une identité particulière UEV. Voilà. Et c'est l'UEV.
Merci. Écoutez, je vous propose, de toute façon, vous pouvez continuer à échanger avec les intervenants. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous, et même ceux qui ont dû partir pour des raisons évidentes de déplacement. Tout d'abord aussi, vous souhaitez de bonnes vacances, parce qu'on est le 1er juillet, donc on n'en est pas loin. Vous rappelez simplement que le 30 septembre, on aura une table ronde sur les zones d'activité, puisqu'on continue ce travail. On avait fait, c'est les centres-villes. Là, cette fois-ci, c'est les zones d'activité. Puis vous verrez, le programme se poursuit. D'ailleurs, tout est sur le site. Et même pendant les vacances, on aura aussi une visite d'entreprise chez Jean-Marc Neveu. On continue à faire ça une fois de temps en temps. On n'est pas très nombreux, mais si certains d'entre vous sont intéressés, vous n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est des visites très éclectiques. Vous parliez d'iconoclaste. Et bien justement, c'est ce qu'on essaie aussi de faire. Et on a la chance d'avoir un chef d'entreprise qui se prête et qui accepte de jouer ce jeu. Voilà. Donc merci encore. Et puis bonne fin de soirée et bonnes vacances surtout. Et à la rentrée, tonique et pour l'université d'été. Juste à signaler aussi une chose quand même. À Bordeaux, il y aura le Parlement des entrepreneurs d'avenir début décembre. Et qui sera une manifestation, je crois, aussi très importante. Et notamment, on en a parlé avec Stéphane Dodon. Je pense qu'un atelier culture-entreprise, y compris sur la journée de novembre, peut être intéressant. Et au Parlement des entrepreneurs d'avenir, il y aura aussi cet atelier. Voilà. Merci en tous les cas.